Saint-Germain. Quel sera le score final, Vincent Duluc?
2-2.
À son sens, il y aura Bertrand Latour.
À mon sens, il y aura 2-1 pour Dortmund.
Dortmund, Paris Saint-Germain, score final, Sébastien Tarrago.
2-2.
Jérôme Alonso.
Il y aura 1 partout.
Et enfin, le président.
1-2.
C'est l'équipe du soir, bonsoir. Non, pas de match nul, pas de victoire pour le PSG, mais une défaite. C'est Niklas Füllkrug à la 36e minute qui a offert donc cette demi-finale aller de la Ligue des Champions pour Dortmund. 36e minute, Füllkrug. 1-0 évidemment à l'issue du match aller à la bouée, comme dirait Eric Blanc, rien n'est perdu. Et petit tour de plateau, aucun chroniqueur n'a donné le bon prono, la bonne tendance peut-être
pour Bertrand Latour.
Le bon écart, donc vous choisissez un des jokers.
Oui.
Un des jokers.
Oui. Oui. Celui d'éliminer Jeanne Micou.
D'accord, ok. Celui d'éliminer Jeanne Micou, l'ambiance est à son comble. Les images maintenant, tout de suite avant 23h, on y va. C'est à vous, Romain.
Bonsoir tout le monde. Le Paris Saint-Germain qui partira donc avec un but de retard avant la demi-finale retour au Parc des Princes. Le seul but du match inscrit sur cette ouverture de Schlotterbeck pour Niklas Füllkrug. L'enchaînement parfait de l'attaquant allemand Marquinhos était en couverture. Donc le buteur allemand n'est pas hors jeu. Énorme occasion pour le Paris Saint-Germain. Double poteau. D'abord, c'est Kylian Mbappé à la 51e minute. Et moins de 10 secondes plus tard, c'est Achraf Hakimi. Une seconde fois le poteau sur la même action. La tête de Fabian Ruiz à côté sur ce centre de Marquinhos. Et une grosse occasion encore pour Ousmane Dembélé en fin de rencontre. On voit aussi le sauvetage de Marquinhos. Il y a eu des occasions des deux côtés en seconde période. Ça sentait le chaos, mais à l'arrivée, c'est le Borussia Dortmund qui s'impose 1-0.
Voilà, Mbappé fantomatique est uniquement de sa faute. Donnarumma en débat. Donnarumma est-il le principal fautif, responsable sur le but encaissé par le Paris Saint-Germain? Faut-il tomber sur le coaching de Luis Enrique? Mais avant, évidemment, Paris a-t-il complètement raté son match ce soir? Habillage à la parisienne. A-t-il complètement raté son match, le Paris Saint-Germain? Vincent, vous me dites?
Non.
Non. Bertrand?
Oui.
Oui. Sébastien?
Oui.
Oui. Jérôme?
Non.
Non. Jomico, à vous de jouer.
Bonsoir.
Bonsoir.
Pas de jingle.
C'est difficile comme métier.
C'est après que c'est important.
Vincent et Jérôme, vous répondez non. Qui commence dans
C'est
cette...
Vincent qui choisit.
C'est Vincent qui...
Vas-y, Jérôme.
Ok.
Je ferai vite.
Ok. Jérôme, voilà. Sébastien ou Bertrand, qui commence?
C'est Bertrand qui décide.
C'est Sébastien qui a décidé que c'était Bertrand qui commençait.
D'accord, ok, très bien, merci beaucoup. Donc Bertrand, vous commencez. Paris a-t-il complètement raté son match? Oui, Bertrand Latour, ouvrez les débats.
Ouais, j'ai trouvé le PSG complètement à côté de ses pompes. La première période est, pour moi, je le disais à la pause, catastrophique. Il y a eu un rebond, un réveil avec ces deux occasions successives, coup sur coup que nous a montré Romain Aran, le Dembélé. Pour le reste, il n'y a pas grand-chose d'autre. Le Paris Saint-Germain... a eu de la chance de ne pas avoir sifflé un pénalty contre lui, a eu des balles de zéro contre elle à de nombreuses reprises, et il y a notamment un sauvetage de Marquinhos. L'attitude n'est pas bonne, tous les joueurs ou presque quasiment sont passés à côté contre une équipe faible, je trouve. Donc pour moi, c'est une soirée ratée complète.
Jérôme Alonso, vous répondez non, pourquoi?
Non, parce que complètement raté, c'est si je vois deux mi-temps comme la première, et là je rejoins Bertrand, effectivement la première était pas acceptable. En revanche, il y a une réaction en deuxième mi-temps. C'est pour ça que je dis pas complètement raté. Il y a eu 4-5 grosses situations pour Paris. Il y en a eu 4-5 grosses aussi pour Dortmund. Mais au moins, j'ai vu une équipe qui frétillait, qui était encore en vie et qui a montré qu'elle avait envie de se battre, qu'elle n'avait pas envie de mourir. Alors, est-ce que j'ai aimé le match en globalité? Non. Est-ce qu'il est complètement raté? Non plus.
J'ai pas senti Sébastien frétiller. C'est à vous de jouer.
Mais non, mais j'ai jamais vu Hakimi aussi faible. J'ai rarement vu Nuno Mendes aussi faible. J'ai jamais vu Dembélé aussi peu tenté. J'ai rarement vu Mbappé aussi fantomatique. J'ai rarement vu un entraîneur passer autant à côté de son match. Et il n'y a que 1-0. Donc pour moi, c'est un superbe résultat pour le Paris Saint-Germain. Et il y avait un pénalty qui aurait dû être accordé au Borussia Dortmund. C'est absolument formidable cette soirée pour le Paris Saint-Germain. Mais ils sont passés complètement à côté. Ils ne pourront pas faire pire au match retour et vont se qualifier.
Ça ne peut pas être pire. C'est pour ça que ce n'est pas complètement raté. Vincent Deluc.
Non, c'est pas pour ça. C'est parce que le PSG a eu des occasions dans le match de faire beaucoup mieux. La réalité, j'ai regardé l'XG. Alors, il y en a qui vont se moquer, mais l'XG, c'est un 83 pour le PSG et un 59 pour Dortmund. Ça veut dire que c'est pas ça, un match raté. Un match raté, c'est que vous avez que des miettes, vous n'avez pas d'occasion, vous n'avez rien du tout. Moi, je trouve, malheureusement, ça ressemble un peu trop à ce qu'a fait souvent le PSG cette saison, à savoir dépendre de marquer les 3 buts de plus de l'adversaire et d'en prendre 2 parce qu'il concède beaucoup trop. Pour moi, ça reflète ce que fait le PSG souvent cette saison. Là, ils ont été punis ce soir par leur manque d'efficacité et par leur manque d'agressivité en première mi-temps dans les duels, mais complètement raté, non.
Ok, bah, l'émission est vraiment lancée là. Vous allez sur le site L'Équipe. Vous votez si vous répondez oui, Bertrand et Sébastien. Si c'est non, c'est Jérôme et Vincent Duluc. Le président est dans la place. C'est complètement raté, oui ou non?
C'est le complètement qu'ils ont moi je trouve qu'ils ont, ils sont passés à côté sur beaucoup de temps dans ce match, mais complètement raté. Je rejoins le non en fait, parce que c'était, il y a quand même eu des possibilités pour revenir dans ce match. Complètement raté, ça veut dire que t'as presque rien eu du tout et que tu as concédé énormément d'occasions. Alors ça a été le cas, mais ils auraient pu marquer aussi. Donc même en faisant un match pas bon match, ils reviennent qu'avec ce 1-0, donc le complètement me gêne un peu. C'est-à-dire qu'il serait passé complètement à travers.
Juste comme ça, en ouvrant la discussion, est-ce que vous attendiez un tel match du Paris Saint-Germain?
Non.
Non, mais on s'attendait à mieux, il faut être honnête. On s'attendait à mieux.
Après, peut-être moi le premier, hein, peut-être qu'on sous-estime l'adversaire aussi.
Oui, non, mais s'attendre à mieux et complètement raté, il y a un écart quand même, non? S'attendre à mieux et complètement raté, c'est pareil ou pas pareil?
Dans toutes les émissions qu'on a faites depuis déjà une bonne petite quinzaine de jours, on voyait que les hommes étaient en forme individuellement, qu'il y avait quelque chose qui s'était créé, tout ça. Là, on sent que ce soir, on a reculé 2-3 cases, non? Non, vous n'avez pas ce sentiment-là?
Moi, je suis gêné par les analyses qui ont été faites après le match contre Barcelone en retour. J'étais pas d'accord avec ces analyses.
Alors,
on s'est emballé de manière un peu excessive, à mon avis. Et je trouve que ce soir, et là je rejoins totalement ce que dit Vincent, on a vu le jeu du Paris Saint-Germain tel qu'il est globalement depuis le début de saison, qui, à mon avis, ne correspond pas du tout aux qualités des joueurs. Bon, mais ça, on reviendra peut-être sur les choix de l'entraîneur. C'est un choix, il a le droit. Et peut-être qu'il va gagner la Ligue des Champions. Donc on se taira et on mettra le chapeau comme ça. Mais moi, j'arrive toujours pas à comprendre comment tu peux jouer comme ça avec les qualités que tu as.
Voilà. Sébastien, moi, ce match-là du Paris Saint-Germain, j'avais vu plutôt en première partie de saison, plutôt lors de la phase de groupe, depuis quelques semaines, je sentais.
Et contre qui, Le Havre?
Non, pas le Havre samedi dernier. Mais
la première mi-temps de Barcelone n'était pas ressemblait un peu à ça.
Ouais.
Donc de retour ou pas?
Non, allez, je parle au match aller. Hein.
Ouais. Vincent, première mi-temps Real Sociedad aussi.
Hein. Oui, c'est vrai. Non, c'est ça. Mais en fait, individuellement, quel que soit le cadre collectif que choisit l'entraîneur et etc., individuellement, il y a trop de joueurs qui n'ont pas été au niveau.
C'est sûr.
Et dans toutes les lignes. Parce que franchement, les joueurs majeurs, on les a pas vus.
Vous voyez ce qu'on disait avant le match.
On parle des attaquants, Vitinha, vous avez Vitinha ce soir? Rien. Ni dans la récupération, ni dans l'influence avec le ballon, rien du tout.
C'est bien pour ça que je trouve que dans ce contexte-là, ne pas les charger lourdement me paraît suspect. Parce que
ça, c'est autre chose.
Les joueurs, individuellement.
On peut les critiquer, mais ça ne veut pas dire qu'ils ont raté complètement leur match, mais on peut les critiquer. Oui.
Ça n'a pas volé où
Moi, je trouve que non. Si, parce que y en a, comme tu le dis, moi, je te rejoins là-dessus, pour moi, il y en a une grande, grande partie qui a été mauvaise ou très mauvaise. Et encore une fois, si tu fais ce match-là à l'Etihad contre City, je n'ai pas le même raisonnement.
Mais 14 tirs à 13, toi, c'est pas non plus.
Oui, mais alors, après, il faut qu'on voit tous les tirs. Enfin, on ne peut pas lire un match uniquement à travers les statistiques. Il y a aussi l'impression générale. Moi, je comprends qu'on puisse s'appuyer sur les statistiques. L'impression générale, c'est que pour moi, il y a 45 minutes à mettre à la corbeille. Sur 90, c'est pas rien. Et tu as un temps fort. Pas mal, retour des vestiaires où tu te procures deux grosses occasions.
Oui, mais pareil,
contre Dortmund, s'il faut faire la chenille là-dessus, ils ont été mauvais ce soir.
Est-ce que tu as aimé la deuxième mi-temps? Je te parle au niveau téléspectateur.
La deuxième période est vivante, très agréable à regarder. La deuxième période du Paris Saint-Germain est mieux que la première, mais ne me suffit pas, parce que le PSG aurait beaucoup plus se marquer en deuxième qu'en première, mais il concède aussi des occasions.
Ça ne suffit pas, mais ça veut dire que complètement raté. Ça veut dire que tu perds ce match 2-0, que tu n'as pas existé en deuxième mi-temps.
Mais tu perds 2-0.
Non mais Jérôme,
t'es pas loin, hein, si le péno est sifflé.
Complètement. Ah oui, t'es pas loin.
Non mais Jérôme, encore heureux quand même.
Ça d'accord.
Encore heureux quand même que le Paris Saint-Germain a quelques occasions contre le. Enfin, dire si le Paris Saint-Germain devait revenir de Dortmund avec zéro tir, enfin, il y a un moment donné, il faut être sérieux.
Là, c'est vache complètement raté.
Fulkrug, il a une occasion qui est énormissime, qui prend du tibia. C'est-à-dire que là, le IG, je ne sais pas ce que ça vaut, mais c'est-à-dire que là, il est face à la cage. Il y a un centre, il a la. Ce que je veux dire par là, c'est que on peut décider de voir ce qu'a eu le PSG sur la deuxième période, et ça a existé contrairement à la première. On peut aussi décider de voir aussi tout ce que le PSG a concédé en deuxième, et c'est un péno, une balle de full crew face au cage et un sauvetage dingue de Marquinhos. C'est pas des situations, c'est des occasions
très très nette.
Oui, mais je peux pas faire ça que t'as deux poteaux du PSG, deux têtes dans les 6 mètres de
David Luiz.
J'entends une frappe d'Ousmane qui est complètement hallucinante dans des conditions parfaites. C'est-à-dire qu'on a 6
ça se tient, franchement, ça se tient.
Donc j'ai vu un gros, un vrai beau match de Champions League en deuxième mi-temps.
Ah si, oui, et t'as raté la première. Est-ce qu'à la fin, pour autant,
donc,
ça
complètement.
Moi, je te trouve enthousiaste parce que j'ai pas retrouvé une intensité digne des plus grands matchs de Ligue des Champions depuis 10 ans.
Tout de suite. Est-ce que tu l'as aimé cette deuxième
mi-temps? Mais moi j'aime quand il se passe des choses.
Mais hier non plus.
Mais hier non plus.
Hier non plus, d'ailleurs.
Ce ne sont pas des grandes demi-finales pour l'instant. Non,
mais moi, j'ai souvent été traversé par cette sensation. Paris s'est réveillé en deuxième période. Et je me suis dit, ils se sont réveillés, mais à quel prix? Parce que j'ai longtemps cru qu'ils allaient perdre le match 2-0.
Bah oui.
Les occasions que vous avez compilées du Paris Saint-Germain, ok. Mais les occasions subies. C'est-à-dire qu'à la fois, ils se réveillent, mais l'équipe est complètement ouverte aussi.
Pas limite,
mais ils sont ouverts contre tout le monde en Ligue 1.
Ça fait trois fois que vous le dites.
Ils sont ouverts contre tout le monde en Ligue 1. Pourquoi ils ne seraient pas ouverts en finale de Ligue des Champions? Ils sont ouverts toute la saison. Depuis le début de la saison, il n'y a pas d'équilibre et ils n'ont jamais résolu le problème.
Oui, mais c'est pas.
Ils concèdent. Là, ils ont concédé 14 tirs. Je crois qu'ils concèdent entre 15 et 20 tirs contre 75% de leurs adversaires.
Pardon, mais.
Ben voilà, c'est
pardon,
comme ça. Ils sont comme ça.
Quand dans le Parisien avant-hier, Arsène Wenger dit qu'il y a un milieu qui s'est un peu plus stabilisé, il voyait plutôt un avantage pour le Paris Saint-Germain. Là, ce soir, c'est un rappel à l'ordre un peu abrupt, un peu radical.
C'est quand même pas le point fort. C'est pas le point fort. Le milieu de terrain, c'est pas le point fort du Paris Saint-Germain cette saison non plus.
Surtout quand Vitinha revient à un niveau.
Voilà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Zaïre Emery, depuis 3-4 mois, il est vraiment pas bien, quand même, globalement. Fabien Ruiz, ben, il est comme il est, comme on le connaît. Et quand Vitinha baisse de cran, ça se voit.
Mais moi, je dois reconnaître, et là, je bats ma coulpe devant vous, que ce qu'ils ont fait.
Plus fort, s'il te plaît.
Au match retour contre le Barça. Pendant une heure, certes à 10, mais il y a eu la première demi-heure où ils étaient menés. Moi, ce que je les ai vus faire, quand un milieu de terrain du Barça, où il y a des bons, grands joueurs, m'avait surpris et me laissait penser qu'ils étaient peut-être un peu meilleurs que ce qu'ils nous avaient laissé entrevoir jusqu'à maintenant.
Mais là, on revient à quelque chose de collectif.
C'est là où moi, je note un retour en arrière. C'est-à-dire
Bertrand, excuse-moi.
J'ai fini, là.
On en revient à quelque chose de collectif. C'est-à-dire que ce soir, en tout cas, moi, c'est la sensation que j'ai eue, c'est qu'il y avait un espace entre les lignes assez incroyable. C'est-à-dire que quand les trois pressaient, si jamais Dortmund se sortait du pressing, le milieu de terrain était 40 mètres derrière. Et donc là, tu t'en sors pas. Si tu fais un pressing, il faut que tout le monde le fasse.
Et c'est toujours le jeu de position là, de Luis Enrique qui. Non, mais c'est drôle parce qu'il met ses positions là, comme un échec là. Il va placer Ruiz dans un intervalle, il va placer Zaïre Emery à un moment, je le voyais, j'ai tiré.
Enfin, à un moment, Dembélé a joué complètement 10 aussi pendant un quart d'heure.
Complètement 10, mais
en fait,
j'ai l'impression que c'est pas efficace. C'est les mecs qui récupèrent et qui se lancent.
On va pas rentrer dans le langage des techniciens, etc. et tout, mais
on est un peu technicien.
Non, mais le jeu de possession sans le marquage préventif, vous êtes dans la mouise tout de suite, quoi.
Ouais.
C'est-à-dire que quand vous occupez des zones qui sont pas naturelles, et après comment vous faites
le marquage préventif
quand techniquement vous êtes aussi imprécis, mais vous prenez le feu à chaque fois.
Le marquage préventif, c'est le comportement de l'équipe dès la perte.
Non, pendant la possession,
oui, pendant
de
la
faire
possession,
attention aux zones où
d'avoir des
vous
sécurité.
Êtes, pour que quand vous perdez le ballon, d'être déjà organisé.
Mmh. Oui.
Et là, côté gauche, en première mi-temps, c'était quelque chose.
Vous, ça vous a pas halluciné ce jeu de position qui fait un peu déjouer cette équipe, j'ai l'impression. Ils veulent jouer un peu à la barcelonaise et ils n'ont pas les qualités pour.
Jeu de position par rapport à quoi?
Quand ils ont le ballon, Ruiz un peu devant, ou Arendt Zahirmé aussi un peu devant sur les phases de circuit. J'ai l'impression que c'est des leurs, mais j'ai l'impression que. Après, pour attaquer, pour enclencher, bah, ils n'ont pas la distance avec le.
Ouais, mais moi je comprends pas trop la question en fait. C'est quoi? Ils jouent au foot en fait. Donc ils se positionnent dans des zones où ils peuvent recevoir le ballon pour essayer de le garder. C'est le principe du foot, non? Essayer de le garder pour ensuite avancer et pouvoir après toucher tes attaquants pour essayer de marquer des buts.
Mmh. Oui,
non, mais ce que tu veux dire.
Expliquer comme ça, c'est limpide. Mais moi je me dis qu'ils se mettent dans des situations où ça n'exploite pas, on va dire, leur qualité. C'est-à-dire que quand j'ai vu les gens.
Oui, c'est un joueur de possession, c'est un joueur qui est capable de jouer. Zaïre Emery, peut-être qu'en ce moment, je suis d'accord, je rejoins Sébastien dans le sens où
Zaïre
il utilise moins ses qualités d'aller percuter que.
Zaïre Emery, tu harcèles, tu récupères,
ouais,
tu donnes.
Mais peut-être qu'après, à un moment donné, physiquement, il est moins bien en ce moment dans sa tête et qu'il n'arrive pas à le faire. Il le fait moins.
Mm-hmm.
On le voit moins bien ces derniers temps, non?
Mm-hmm. Mais après.
Alors après, peut-être c'est ces joueurs-là qui gênent un peu, mais Vitinha peut-être a été moins bon ce soir, mais si t'as. Il y a des zones aussi, moi ce qui m'a surpris, c'est ce que je dis à la mi-temps, c'est qu'à un moment donné, Dortmund passait de gauche à droite par rapport à sa position à lui. Et là, il y avait des espaces qui étaient incroyables. Donc, est-ce que c'est la défense qui ne monte pas? Est-ce que c'est les milieux qui n'arrivent pas à coulisser assez vite? Là aussi, on a parlé en premier temps qu'il y avait Barcola et Dembélé qui étaient un peu plus...
Dans l'entonnoir, un peu, ouais, ouais.
Donc, quand il pressait, ben, il laissait tout cet espace de libre, personne ne le prenait. Et moi, c'était assez surprenant de voir ça. J'étais surpris que... Et ça arrivait plusieurs fois. Ah, oui. Devant le banc de Paris... Et ça n'a pas été corrigé, donc j'étais très surpris.
Alors, parce qu'il y a trop d'espace,
non ? Est-ce que c'est une volonté de laisser le joueur qui était à droite de Dortmund partir avec ce ballon, parce que peut-être c'était la manière de le récupérer, de pouvoir contrer, ça peut aller très loin. Mais c'était très surprenant qu'il n'y ait pas de correction là-dessus. Quoi. Ça m'a surpris. Après, ce que tu voulais, où tu voulais m'amener, je ne vois pas trop en fait.
Non mais je trouve que
positionnement des joueurs, après tu joues quoi.
On débrief.
Je trouve qu'il n'y a rien de nouveau aujourd'hui dans ce que le PSG a essayé de faire. Enfin, ils ont beaucoup raté, mais il n'y a pas eu d'invention comme il y avait eu peut-être sur le match aller de Ligue des Champions contre le Barça.
Ouais.
Pour moi, enfin, c'est là où peut-être que je rejoins Seb, mais on ne peut pas avoir dit depuis 15 jours à quel point Luis Enrique a tout changé, tout apaisé, tout réussi.
C'est deux choses différentes.
Depuis le début.
Apaiser les choses et la tactique, c'est une chose.
Les têtes et la manière de jouer et le logiciel et tout ce qu'il apporte. Et parce que là, ils perdent sur une demi-finale aller, dire que le modus operandi de trouver, chercher depuis le début n'est pas bon.
Non, mais pour rebondir là-dessus,
soit il y a eu un emballement après la demi-finale, soit on n'est que sur le résultat.
Pour rebondir là-dessus, souvent, quand le PSG perd, on va attaquer l'entraîneur. Ouais. Après, il y a des joueurs sur le terrain. Mmh. À un moment donné, il y a des joueurs quand même internationaux avec un caractère particulier, un palmarès, etc. C'est un peu à eux de prendre les choses en main. Quoi. Mmh. Tu joues en demi-finale de Ligue des Champions, tu ne vas pas attendre de regarder le banc pour savoir comment il faut faire, qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Quand tu as le ballon, c'est aussi toi qui es sur le terrain et qui vois ce qui se passe autour de toi.
Moi, je suis d'accord avec toi.
Et il y en a qui n'ont pas fait assez.
Un truc quand même, par rapport à la question, a-t-il complètement raté son match ? Il y a un truc dont on est obligé de parler, c'est que c'est une demi-finale aller et il y a le score. Mmh. C'est-à-dire, on se pose même pas la question, est-ce que oui ou non, c'est un bon score ? Est-ce que oui ou non, c'est un bon résultat ?
Ça va arriver, non ?
Non, mais ce que je veux dire, c'est que...
Évidemment que ça va.
Non, mais complètement raté, ça serait, est-ce qu'il vous reste 10% de chance de vous qualifier ? Là, c'est pas le cas. Combien de chances maintenant? 1-0, on s'en fiche. 1-0, 4-3, c'est pareil maintenant.
Ça
change plus. Donc, il suffit de gagner avec un but d'écart au retour pour se qualifier.
C'est pas un mauvais résultat.
Non, mais je veux dire, voilà.
Moi, je pense que c'est important. Super.
Mais dans complètement raté, ça rentre. C'est ce que je voulais dire.
Il suffit de gagner avec deux buts.
Non, mais un est au tir au but.
Ah, au tir au but.
Bah pourquoi pas.
Mais alors, bah, vous avez un gardien italien, ça peut marcher.
Non, au tir au but, je pense. S'il marque après ça.
Mais si, mais ça peut marcher, je veux dire.
Trois buts, tu peux les mettre. Hein. Oui. On l'a vu ce soir.
Donc finalement, on vient de commencer l'émission depuis un quart d'heure et vous nous avez refait le moral, Vincent.
Voilà. Mais non, mais c'est juste un peu de recul, c'est tout.
Oui, mais.
Je suis très déçu.
Oui, mais parce que vous attendiez à ce qu'il y ait 2-0 pour Paris, non?
Je m'attendais, oui, à ce qu'il y ait un match cohérent avec.
Mais pourquoi?
On s'attend à quelque chose par rapport à ce qu'on a vu de Barcelone.
Oui, mais pourquoi
ça me gêne du joueur? Est-ce que vous avez vu le match de Barcelone?
Moi, je comprends.
Alors, la première demi-heure de Barcelone. Est-ce qu'on l'a vu depuis le mois de septembre en Champions League? Sur une demi-heure?
Non, jamais.
Mais dans ces cas-là,
point. Ouais, donc, ça veut dire que... Non, mais ce que je te dis, ça, j'excuse rien. Je te dis qu'on l'a jamais vu.
On l'a vu.
On s'attend. Donc, je te dis que ce soir.
Si, on l'a vu. On l'a vu. Lyon,
la Champions League.
Mais on a vu plus souvent le PSG de ce soir que le PSG de Barcelone.
Non, mais moi, je veux bien. Mais dans ces cas-là, pourquoi on fait croire à tout le monde que le PSG peut gagner avec des champions?
C'est presque
parce que c'est possible. De collectivement, la petite musique.
Parce que c'est possible, Bertrand.
Non, mais c'est possible, d'accord. Mais j'ai l'impression. Ou alors, peut-être que je vis sur Mars. J'ai l'impression que depuis que le PSG a sauté le Barça, on se dit tout est possible. C'est leur année. Ils ont un super entraîneur.
Heureusement.
D'accord, et maintenant, mais ils ont perdu contre le Dortmund, mais en même temps, ils ne sont pas bons depuis le début de saison parce qu'ils concèdent 27 tirs par match. Je suis d'accord avec vous, mais dans ces cas-là, il ne faut pas dire avant le match.
Mais si.
Et ils ont joué ce soir contre une équipe, je les ai vus le week-end dernier, ils en ont pris 4 à Leipzig, ils sont à 25 points des Leverkusen, qui est une très bonne équipe, d'accord, mais ils n'ont pas perdu à l'Etihad contre le grand Manchester City.
Mais c'est
moi, j'espérais naïvement, même si cette équipe n'est pas parfaite, que ce soir, ils ne se fassent pas valser comme ils se sont fait valser contre Dortmund.
Ils ne se sont pas fait valser tout le match, c'est faux. Mais pas dire ça, mais non,
pendant,
c'est faux.
Pendant 60 minutes,
ça correspond pas au fait. Mais non, ça correspond pas au fait.
Non,
la première mi-temps, ça a basculé au bout de 25 minutes. Bon, pendant 25 minutes, ils ont pas joué Dortmund. Tu peux pas dire ça.
Bah, je peux le dire.
Le match était juste inintéressant pendant 25 minutes.
Bertrand, je vois 0 tir du Paris Saint-Germain pour la période, ça me convient pas.
Bertrand, ce soir, le Paris Saint-Germain est passé à côté de son match.
Oui.
Et il n'y a que 1-0. Et, ils se sont créés des occasions. Moi je pense qu'il y a beaucoup d'espoir pour le match retour.
Mais moi aussi, je pense qu'il y a des espoirs.
Non, mais pour le reste, moi, ce qui m'agace un peu, c'est le côté oui, mais avant le match, on s'emballait. Bah, mais heureusement qu'on s'emballe quand il y a une équipe de France, une équipe française en demi-finale de Ligue des Champions. Heureusement qu'on s'emballe.
Même pour moi, avant ce match, moi, je me dis que s'ils sont éliminés par Dortmund, c'est une catastrophe.
Je suis d'accord avec toi, ça oui.
Donc, on est obligé.
Là-dessus, je suis d'accord.
Après le match, qu'on est très déçu de ce qui s'est passé, parce que moi je pensais qu'il y avait vraiment une classe d'écart entre les deux clubs. Je crois encore, et oui, je pense que si, le PSG n'a pas fait le match qu'il fallait, parce que ce soir il doit y avoir, moi, entre les deux équipes, au moins deux buts d'écart.
Mais il y a des choses.
Ça n'empêche pas que dans une semaine, ça sera bien.
Mais sur le plan tactique.
Parce qu'il y a un contexte.
Ça veut dire que ce soir, ils ont raté un truc, quoi.
Ils ont raté un truc.
Sur le plan tactique,
beaucoup sont passés à la complètement.
Rendez les points, Mikou.
Sur le plan tactique, il y a des choses intéressantes. Malheureusement, on n'aura pas les réponses. C'est-à-dire que ce soir, par exemple, Ousmane Dembélé, que j'adore, il n'a pas dribblé une fois quasiment. C'est une demande ou c'est parce qu'il ne peut pas ce soir? C'est intéressant.
Non, mais il a trois occasions de but, quoi.
Non, mais je te parle dans le jeu. Là, on parle que du. Non, mais dans le jeu, tu es bien d'accord qu'il n'a pas tenté comme il tente d'habitude.
Moins, mais parce qu'Adeyemi venait défendre de son côté et tout, c'est compliqué.
Eh ben oui. Non, mais il n'a même pas
essayé. S'il
y a quelqu'un qui peut jouer même les 1 contre 2, il peut les jouer.
En première, il était déjà en deuxième, c'est vrai qu'il ne le faisait plus.
Non, il n'a plus fait.
Je ne comprends pas.
On est en train de résumer le match, de nous donner nos impressions, nos sentiments. Pour cette émission en particulier, vous pouvez aller sur X, ancien Twitter, voilà, ça a changé de nom, Sébastien. Vous nous envoyez vos petits messages et tout ça,
Il envoie toujours.
À la perfection.
Il est toujours sur Twitter.
C'est pour ça.
Romain, vous avez une réaction peut-être un peu surprenante sur l'analyse du match d'Achraf Hakimi. On y va.
Oui, on en a.
Il s'est trouvé bon.
On avait Marquinhos et Hakimi chez nos confrères de Canal+. Et les deux parlent des occasions ratées, notamment. On a manqué trop d'occasions, dit Hakimi. On a manqué de concentration pour surveiller la profondeur. Malgré ça, on a dominé chez nous, ce sera différent, j'en suis sûr. Les occasions rentreront.
À part ça, on a dominé.
Non, mais il va pas dire autre chose, mais effectivement, c'est ridicule de dire on a dominé. Quoi.
Ouais, franchement, voilà.
Ils ont eu le ballon plus souvent, mais c'est tout. Quoi.
Marquinhos est à peu près dans la même veine sur ce qu'il a déclaré, c'est les occasions ratées, on a manqué de réalisme.
Mmh. C'est la vérité. Ouais, ça c'est vrai.
Ouais. Il y aura la vidéo pour...
du service après-vente. Mes amis, est-ce qu'on peut avoir le résultat, mes amis? Peut-on avoir le résultat de ce super duel? Est-ce un match complètement raté?
On s'est bien battu, Jérôme, parce que c'était pas gagné.
Vous avez gagné.
C'était pas gagné.
Oui,
on s'est bien battu.
En fait, il y a le score et le contenu. Enfin, le score.
Gagné 1-0 à la 4e contenu.
Mais... ça, c'est le nom.
Giovanni Castaldi est dans la place, notre envoyé spécial. Bonsoir, Giovanni.
Bonsoir.
Ah, il est pas là.
Oui, il est là, il est en salle de presse. Bah, le tour, parce qu'on a des caméras partout. Bonsoir Giovanni. Paris a-t-il complètement raté son match? Vos impressions, vu du stade, avec deux, trois petites anecdotes, des choses que vous avez repérées, c'est aussi important d'avoir ce complément d'information et ce regard.
Bonsoir Mémé, complètement raté, non, parce que dans un match où ils ont été cataclysmiques en première période, ils ont quand même réussi en seconde période à se créer beaucoup de situations. Je trouve que Dortmund a bien joué le coup en première, ils ont été intelligents. C'est un match qui a été très agaçant pour les Parisiens, ça s'est vu en seconde période, il y a eu énormément de déchets. Alors même si j'étais pas la veille à Munich, on a pu suivre la rencontre, c'est vrai que le contraste déjà entre le niveau de la première demi-finale et de la deuxième, on est quand même descendu de deux étages, et même si Paris a pas fait un grand match ce soir, qu'ils ont raté beaucoup de choses, voilà, notamment les trois joueurs offensifs qui ont été très décevants. On a essayé de nous faire croire aussi que Nuno Mendes était en pleine possession de ses moyens. Alors je veux bien qu'il ait pas été bon, mais j'arrive pas à croire qu'il était à 100% ce soir, tellement il a raté sa rencontre. Je trouve que dans un match où tu as maîtrisé peu de choses, où tu as raté énormément de choses, tu arrives à créer beaucoup de situations, et donc j'arrive pas à être inquiet pour le Parc des Princes, parce que si le Paris Saint-Germain était tombé face à une très grande équipe, ils auraient pu être beaucoup plus punis tant ils étaient à l'envers ce soir.
Merci beaucoup Giovanni, je sais que vous êtes en salle de presse, dans quelques minutes Moussa Enrique va débarquer, votre meilleur ami. Là c'est drôle ce truc là parce qu'en fait ils ont été mauvais machin, mais il y a pas d'alarme en fait. Il y a pas de truc, il y a pas de pour le match retour, il y a pas de révolte. C'est une sorte de match où on est alors, on a si mal joué, on n'était pas à notre
si
niveau.
Je viens avec Bertrand et Seb, on a
bien mon lapin
complètement raté son match.
Ouais.
Mais un, t'es en vie au niveau du score largement, et deux, même si eux aussi, t'as eu 6 occasions nettes.
Mais je sais pas si c'est...
Dans un mauvais soir.
6.
Bah, alors écoute.
Non, bon, le soir classique.
Les deux poteaux, tu comptes une ou deux?
Oui, tu comptes deux.
Tu comptes deux.
C'est une action.
Bah non, tu comptes.
Ouais, non, mais allez, on lui accorde deux, Dembélé les trois.
Donne-lui deux.
Et les deux Ruiz.
Et les deux Ruiz.
Cinq. J'ai exagéré deux.
Et Colo une qui est grosse.
Sur la louche de Mbappé.
Ah ouais.
C'est-à-dire que si je vous suis, c'est une soirée catastrophique, c'est une occasion et tu perds que 1-0. Donc évidemment qu'on n'est pas inquiet.
Ouais, mais...
on fera un procès s'il y a lieu mardi prochain.
Mais je me dis, est-ce que c'est un match comme ça, une défaite comme ça, pour au club, les joueurs, de sonner la révolte, ou alors il y a toutes les excuses là pour être un petit peu amorphe.
Non, mais il y a 5 jours seulement.
Parce que c'est Dortmund. T'as pas perdu contre, pour moi, une équipe qui est au-dessus de toi. Parce que je pense que si tu perds contre.
Non, mais ça, c'est dangereux sentiment.
C'est peut-être le danger, ça.
Non, mais c'est dangereux sentiment tout puissant.
Ouais, je pense que Henrique peut transmettre ça, il a ce côté, un ego quand même assez élevé. Mmh. Il a à dire qu'ils sont au-dessus, qu'ils doivent le montrer au retour. C'est pas très inquiétant pour
moi. Moi, je pense
c'est que pas ça, très difficile à faire, ça.
Non, je parle par rapport au coach qui est là. J'ai l'impression que Luis Enrique est capable de dire ce soir, on est plus fort qu'eux, etc. Et puis on va leur montrer au retour. Mais par contre, c'est à vous de le faire.
Moi, je pense que c'est pas. Après, on sait que la mécanique des matchs aller-retour, surtout quand c'est aussi rapproché, parce que là, c'est du mercredi au mardi, donc ça fait que 6 jours. En fait, c'est assez basique. C'est que là, ils ont les boules. Dans 2 heures, ils ont commencé à se dire, putain, qu'est-ce qu'on va leur mettre? Et puis demain matin, ils vont être remontés comme des balles. Et ça va durer 5 jours.
Aussi rapidement que ça.
Ah oui.
Aussi rapidement.
Mais oui, ils s'en fichent du week-end, ils s'en fichent de tout.
Moi, ce que je trouve décevant.
Il n'y a plus que ça qui compte.
La seule chose que je trouve décevant, c'est qu'ils ont parfaitement conscience d'être une équipe moyenne depuis le début de saison. Ils le savent. Et ce soir, il n'y a pas le supplément d'âme. Et c'est ça qui me déçoit un peu. C'est-à-dire que il n'y a pas une agressivité, il n'y a pas une tension, il n'y avait pas ça ce soir. Et je pense qu'il y aura ça la semaine prochaine.
Oui.
J'espère en tout cas pour eux.
Il y a Giovanni qui veut nous parler. Giovanni, vous liez la main pour nous parler peut-être de la psychologie parisienne, enfin nous raconter quelque chose par rapport au match, par rapport à ce match-là et en vue du match retour.
Non, ce que disait Sébastien sur le côté un peu amorphe et pas supplément d'âme sur l'agressivité, ça c'est, je trouve, énormément vu en première période, je le rejoins. Mais moi, sur la seconde période, et là ça va plus dans le sens de ce que disait Johan, j'ai senti une équipe qui a monté le curseur en termes de rythme, en termes d'intensité, mais qui était surtout, qui avait un déchet affligeant. Et j'ai senti des joueurs qui étaient déjà agacés contre eux-mêmes. Ils n'ont pas arrêté de se parler, de s'invectiver, ils se sont dit les choses. On sentait qu'ils s'en voulaient énormément sur le terrain. Donc le sentiment de révolte, il n'y a pas un côté amorphe, il l'avait déjà entre eux sur le terrain. Donc c'est pour ça aussi que ça participe au sentiment que je ne suis pas inquiet pour le retour. C'est qu'ils ont, osé se dire les choses, ils se sont gueulés. Parfois c'est positif comme ça de se dire putain les gars, on est nuls, on n'est pas bons, on rate tout, il faut qu'on se ressaisisse, il faut qu'on se remette dedans. J'aime bien quand un groupe se parle comme ça.
Oui, j'ai vu Marquinhos hausser le ton sur pas mal de choses avec Dembélé qui s'excusait. Jo, vous étiez en train de repérer 2-3 petites choses parce que le foot, c'est aussi les chiffres et vous êtes un homme de statistiques, tout le monde le sait. Et 120 km parcourus donc pour Dortmund, 110 pour le Paris Saint-Germain. J'essaie de désamorcer parce qu'à vous côtoyer, mais il faut toujours essayer de comprendre ce chiffre avec le chiffre de la possession. Est-ce que ça pondère le fait que Paris ait un peu plus le ballon dans la possession?
10 km de moins avec 4%, 8% de plus le ballon. Non, je disais tout à l'heure, City, je crois, contre le Real, a couru plus que le Real. Et pourtant, c'est City qui avait le ballon. Donc,
C'est assez rare.
Non.
En général, c'est assez rare. C'est l'équipe. En général, c'est un contre-exemple ce que vous dites. En général, c'est l'équipe qui n'a pas la balle qui court le plus. Pourquoi? En général.
Ça dépend, que si tu es dans un jeu de position,
ça dépend, si ça presse, si ça.
Tu cours pas trop, tu te déplaces de gauche à droite.
Je dis en général, les gars. En général, quand on court.
Là, tu dis un truc que on peut pas vérifier.
Il a 15 ans d'équilibre derrière lui avec ses mêmes
chiffres. En général, ce qu'on voit, à chaque fois que j'ai consulté la possession, l'équilibre
est parcouru. 2 km, 3 km, ouais, mais là, t'en as 10. Quoi.
Ouais.
C'est un joueur de plus.
C'est beaucoup. Ouais. Ouais.
Donc, c'est peut-être un joueur de moins. Quoi.
Après, parfois, ce que.
Parce qu'après, on m'expliquait à l'époque que c'était très important, qu'il y avait les Messi qui ne couraient pas et compagnie. Donc, on est toujours au même point. Non, mais je sais pas.
Après, ce que regarde.
C'est juste une remarque. Hein.
Beaucoup les gens dont c'est le métier de la data, c'est aussi. Nous, on a ces chiffres-là et c'est très bien de les avoir. C'est aussi le nombre de sprints effectués. Et ça, c'est pour beaucoup. C'est aussi des marqueurs de savoir si c'est bien de courir, mais c'est à quelle intensité tu le fais. Et les sprints, c'est aussi quand même un bon marqueur. Là, on n'a pas l'élément. Mais
le truc, c'est que Paris est toujours en dessous des autres. Non, mais en plus, il sprint fort, pas fort.
En général, oui. L'an dernier, en tout cas, c'était très.
Là, 10, c'est beaucoup.
Et là, ce soir, effectivement, 10, ça commence à être très conséquent.
Le problème, c'est que les sprints à haute intensité, les attaquants du PSG, ils n'ont pas pu en faire. Il n'y a jamais eu d'espace, il n'y a jamais eu de profondeur.
Rarement aussi.
Non, mais il n'y a jamais eu d'espace, il n'y a jamais eu de profondeur.
Non, je sais pas si. Non, mais juste, on s'éloigne. On s'éloigne de votre observation. Non, pardon, on s'éloigne de votre observation. Est-ce que vous avez vu un déficit athlétique, là, la vision générale? Parce que parler des chiffres, on parlait des chiffres.
Non, mais ce que dit Sébastien, c'est juste. Sur que le fait qu'ils ont pas. Qu'il n'y avait pas un petit truc en plus, ni dans l'agressivité, ni dans le pressing, ni dans les contrées forts, ni dans le mouvement. Quand tu as le ballon, en général, tu donnes, tu bouges, et là, ils donnent, ils ne bougent pas. Enfin, il y a plein de choses qui étaient
un peu. Ils ont mis un peu d'intensité, ils passaient quoi.
C'est là où
ils
se sont grillés. Mais ils ne l'ont pas fait longtemps.
Et là, ils n'arrivent pas à le faire sur une durée assez longue. Mais ça, je le répète, moi, depuis 10 ans. J'ai pas la science infuse. Mais tant que tu n'arriveras pas à le faire en Ligue 1, à faire des matchs de la première à 95e,
exactement.
Ils ont fait au Barça sur 60 minutes.
Tu n'arrives pas à le faire après en Ligue des Champions, parce que c'est un niveau au-dessus.
La régularité. On voulait parler de Mbappé, mais on va faire un petit crochet du côté de la case. Luis Enrique, pourquoi? Puisque le fil Twitter, le fil X, j'appelle Twitter, je suis un vieux. Le fil X résonne. Il y a beaucoup de téléspectateurs qui sont remontés contre le coaching de Luis Enrique. On va un peu s'adapter et voilà. Est-ce que en régie on peut mettre déjà le coaching de Luis Enrique, la compo de départ? Je pense que la compo de départ est pas forcément quelque chose qui fait débat. Mais le coaching de Luis Enrique, c'est ça. Beraldo Hernandez, ça, son coaching, ok. Lucas Hernandez est blessé. 65e minute, c'est Barcola donc qui sort. Et Randal Colomani, nos téléspectateurs,
ils sont montés.
Est-ce qu'il faut tomber sur ce coaching-là, le fait de faire rentrer Colomani et de ne pas faire rentrer...
Enfin, on peut quand même à minima s'interroger. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le jeu. Et vous savez ce que je pense depuis le début de saison. Je ne comprends pas comment joue le Paris Saint-Germain. Mais... sur ce thème-là, quand vous avez un joueur comme Ramos qui est en pleine bourre, et à l'inverse, vous avez Colomani qui n'a plus de temps de jeu, il n'a plus de temps de jeu, plus rien, quasiment. C'est des minutes par-ci par-là. Comment vous pouvez faire ce choix? Ça veut dire que c'est tactique, ça veut dire que vous jouez sur la vitesse de Colomani.
Ça se défend.
Mais ça se défend. Il n'a plus de temps de jeu. Il n'a plus rien.
Non, mais
c'est quoi, il met plus un pied devant l'autre depuis six mois.
Le cheminement intellectuel et sportif qui t'amène à ne pas mettre un mec qui à chaque fois qu'il rentre est bon. Ramos.
Et il marque.
Et en plus, dans un système là avec des gaillards comme lui en face où il va pas avoir peur d'aller au carton tout machin, et Colomani, dont on est tous d'accord pour dire qu'il est en perdition depuis 7 mois.
C'est pas possible.
Dans le match, possiblement, le plus important de l'année. Je veux comprendre où est
surtout dans un match.
Mais si vous l'avez, dites-moi.
Dortmund joue bas, et je trouve que Ramos, c'est quand même un joueur sur lequel tu peux t'appuyer dans l'axe.
Quand même.
Tu peux combiner, tu peux faire des 1-2. Et puis, c'est un joueur, quand il va y avoir le centre, il va y être dans la surface pour marquer.
Mais surtout, ce que je comprends pas, c'est que tu veux ton fameux jeu de position, de possession, je sais plus, là. Je le vois pas, mais bon, ok, tu veux ton jeu, là. Mais donc, en fait, il te faut quelqu'un dans la surface. C'est pas Mbappé qui va te faire ça. Mais le à gauche.
J'ai pas entendu ça il y a 15 jours.
Mais quoi. Moi, mais tu m'as pas entendu le dire.
Non, mais d'accord.
Non, je te pose une question. Tu m'as pas entendu le dire.
Je sais plus.
On n'a pas discuté.
D'accord. Ce que je veux dire par là, c'est après le match aller contre Barça, moi, je suis plein de penser qu'Enrique, il les fait paumer. En tout cas, s'il fait d'autres choix, le score peut être largement différent. Là, honnêtement, la compo de départ,
c'est la rentrée qui fait les bains sur le fil Twitter.
Je ne dis pas, vous dites n'importe quoi. J'entends vos arguments. Je dis aussi que l'idée de se dire que la vitesse de Colomani sur une demi-heure peut apporter des choses parce que Barcola est à la ramasse, ça peut se défendre. Je pense que la défaite du PSG ce soir ne se joue pas sur le coaching de Luis Enrique. Je pense pas. Je pense pas que ça se joue.
Sauf que le coaching n'a rien résolu, n'a rien amené, n'a rien créé, n'a rien apporté en fait. Non mais tu le fais pas. Tu le sais pas. Mais après coup tu peux le dire. C'est-à-dire que ça rien fait. Il a pas résolu un problème et il n'a pas amené quelque chose. Il n'a pas créé un nouveau déséquilibre,
c'est
rien.
C'est une question qu'il faudrait peut-être lui poser pour savoir.
Il fait poste pour poste un mec qui est moins bon que celui qui sort.
Giovanni Castaldi.
En disant pourquoi Colomani.
C'était quoi l'idée
tactique?
Il va essayer, Giovanni.
Pourquoi pas?
Il va essayer. Tu vas voir la réponse.
On a Giovanni, justement. Giovanni, vous êtes là ou pas?
Oui, vous êtes là. Oui, vous êtes là, oui, Giovanni.
Oui, dans je
quelques...
suis là, mémé.
Non, mais je... dans quelques minutes, Louis, si on vous donne le micro, essayez peut-être de savoir pourquoi il a voulu faire rentrer Colomani. C'était quoi l'idée, quoi? Non, peut-être, je sais pas. Et vous voulez intervenir aussi là-dessus? Pardonnez-moi.
Il est énervé.
Non, mais il connaît la réponse, c'est pour ça.
Je sais qu'il va me répondre que je suis un journaliste et que je comprends rien au foot, et etc. Je sais très bien ce qu'il va me répondre. Non, mais honnêtement, moi, je veux bien, je comprends l'idée de mettre...
Aïe. Ah voilà, mais sabotage.
C'est le Cédric qui
est pour une fois que c'est
un complot.
Hein, pour une fois que
c'est oui, en plus, on se disait ça. Ça partait bien, cette phrase-là.
Sabotage. Bon, on va revenir dans quelques minutes avec...
Tu remets, en plus, si tu mets Ramos dans l'axe, tu remets donc Mbappé à gauche. Donc la vitesse, tu l'as. Si c'est l'idée de rentrer Colomoigny pour avoir la vitesse, t'as Mbappé, tu peux le mettre à gauche.
De toute façon, t'as pas d'espace.
Donc, eh ouais.
Non, mais si tu ne veux pas. Ce que je veux dire, c'est quand même, si c'est pour jouer en 4-2-3-1, comme il l'a fait à un moment, avec Zaïre Emery côté droit, mais à ce moment-là, fais rentrer Kang In-Li, passe à deux, sort un milieu, passe à deux, au lieu de faire poste pour poste, Barcola et tout. Passe à deux, et puis t'as un bon 4-2-3-1. Kang In-Li, il peut presser, il a un pied gauche, le faux pied est intéressant aussi, enfin, je sais pas.
Mais après, moi, je rejoins Bertrand dans le sens où c'est pas ce changement, peut-être, ça aurait pu amener quelque chose de plus. Ça aurait pu faire.
Un changement sûr que ça change.
Oui. Non, mais je suis très sûr. Oui, mais après, c'est le centre de l'équipe.
Oui, mais ça a un peu, ça un petit peu éteint quand même la période, la bonne période parisienne.
Louis,
c'est les actions. Pardon, les actions, elles arrivent quand même après cette la rentrée de Colomoigny, non?
Non. Ça avait commencé avant.
La petite louche. Il y en a un peu avant, mais ça continue. Il n'y a pas eu une rupture après ça.
Non, la louche, oui, c'est vrai.
Ça avait commencé.
La louche d'Mbappé pour Dembélé, ça en fait une. Le centre en retrait de Dembélé, je pense qu'il est déjà Colomoigny sur le terrain.
Oui, je pense.
Parce que c'est un peu plus tard, quoi.
C'est plus tard.
Non, mais donc ça n'a pas cassé le rythme, mais c'est pas ça qui pour moi fait que Paris chute ce soir.
Oui, d'accord.
Il y a beaucoup d'autres trucs.
67e minute, oui, mais il y avait pas mal d'actions avant. Hein. Barcola pour Kylian Mbappé, Kobel angle fermé, PSG 56e, Ruiz, la tête n'est pas cadrée, c'était la première de Ruiz. 48e minute, une frappe assez lisible de Barcola. On se dit, tiens, ça y est, ils sont un petit peu réveillés. Le double poteau intervient à la 50e. C'était avant ce coaching, les temps forts.
Non, on se demande juste pourquoi ton joueur, qui est le meilleur en sortie de banc depuis 6 mois, il ne rentre pas dans ce match-là quand t'es mené. Point, c'est tout. Voilà. Ça va pas plus loin que ça.
Oui, mais c'est, je veux dire, c'est... Moi, ça me semble pas aussi majeur que ce que vous le dites sur.
Non, mais c'est étonnant quand même.
C'est un fait de match qui est important quand même.
Tout. Bah, et pour moi, il est secondaire, mais.
Non, c'est important.
Bah, pour moi, c'est ça. Mais dire, si pour vous, Ramos sur une demi-heure, il change le match, j'entends, mais il
en a changé quelques-uns ces derniers temps.
Mais d'accord, pas la réponse.
Il en a changé quelques-uns ces derniers temps.
Des ballons dans la surface, tu sais qu'il va y
avoir. Ce qui est sûr, c'est que Colomoigny, depuis la finale de la Coupe du Monde, il a pas changé le cours d'un match.
Il marque des buts contre le Havre, ok.
Non, mais Colomb, personne n'a remarqué ça. Il en a mis plusieurs, mais en plus sur cette période-là. Là, c'était pas en septembre. Et Colomoigny, en plus,
il
n'est pas très bien
souvent.
Donc c'est ce truc qu'on ne comprend pas,
j'entends.
En fait. Mais on n'aura sûrement pas la réponse.
Mais c'est un coaching à la Luis Enrique. C'est j'ai raison, vous allez voir, je passe en forme. Non, mais il a ce côté-là un peu, le coaching un peu. Ça va passer.
Après, j'imagine quand même qu'il croit. Enfin, oui. J'arrive pas à imaginer que ce soit juste toujours contre les gens. Il croit à ce qu'il fait. Voilà, peut-être que la réussite va l'amener à être champion d'Europe, mais je continue à trouver ça extrêmement étonnant.
Il a aussi le truc qu'il veut laisser Mbappé dans l'axe, tu vois.
Mais pourquoi?
Je sais pas, parce qu'il dit que
peut-être qu'il considère que quand t'as pas le ballon, il va jamais presser et que c'est problématique.
Mais Barcola a pressé très haut, c'est vrai, mais enfin, il a été pris tout le temps à gauche.
Mais il court un peu plus. Donc c'est peut-être ce qu'il reproche à Mbappé. Il se dit peut-être que s'il est à ce poste-là, ça me pénalise pour mon jeu sur le ballon. C'est une hypothèse.
Ouais. Qu'est-ce que Luis Enrique a pensé de son match? Bah oui, là, on aura la réponse dans quelques minutes grâce à Romain Aran qui a les oreilles et les yeux partout. A tout de suite. Vous regardez l'équipe du soir, le show est en direct, 1-0 pour Dortmund, Boniklas Füllkrug à la 36e minute. Dans quelques minutes, la conférence de presse de Luis Enrique va débuter. Juste avant, un petit saut de puce avec Romain Aran, le maître des images, le chirurgien de l'image, 1-0. Alors oui, c'est un peu pompeux, hein, comme lancement. Débrouillez-vous, le résumé là, en 30 secondes s'il vous plaît Romain, c'est plus efficace.
La victoire 1-0 du Borussia Dortmund en demi-finale aller de Ligue des Champions, le seul but du match inscrit par Niklas Füllkrug. Qui est parti dans le dos de la défense parisienne. Un contrôle, une frappe, c'est clinique. Marquinhos couvré. Le PSG qui a des occasions en seconde période, notamment ce double poteau en moins de 10 secondes. D'abord, c'est Mbappé et ensuite, c'est Hakimi sur une remise de Barcola. Les Parisiens pas en réussite sur cette action. Centre de Marquinhos, tête de Fabian Ruiz à côté. Puis c'est Dembélé en très bonne position qui va tirer au-dessus. Dortmund aussi a eu des occasions en seconde période. Vous voyez ici le sauvetage de Marquinhos. Donc, victoire de Dortmund 1-0. J'en profite pour dire que 32% des équipes qui ont perdu à l'extérieur le match aller se sont qualifiés au match retour depuis la fin de la règle du but à l'extérieur. Ça fait une équipe sur trois.
On en parle tout à l'heure, Romain, ne mettez pas tous vos biscuits comme ça. Voilà, parce qu'après, les gens commentent et tout ça. Dans quelques minutes,
ben voilà, il arrive.
Ben Luis Enrique est dans la place. L'homme qui était un peu critiqué pour son coaching par les réseaux sociaux, il est en direct. C'est à vous, Luis Enrique.
La chaîne L'Équipe, je suppose que vous êtes déçu du résultat. Petite question par rapport à votre coaching. Vous avez fait 40 remplacements dans le jeu, hormis la blessure de Lucas avec Beraldo. Vous avez choisi de faire entrer Colomoigny. Ça veut dire que vous étiez satisfait de ce que vous voyez sur le terrain. Et pourquoi, par exemple, ne pas avoir utilisé Gonçalo Ramos, qui semble en pleine possession de ses moyens actuellement? Merci.
Et buenas noches, bonsoir. Los entrenadores tomamos siempre decisiones en función de lo que consideramos que es mejor para nuestro equipo. Creo que antes de entrar en valorar los cambios, creo que se ha visto un partido igualado, con dos equipos que juegan bien a fútbol cuando tienen el balón y que es difícil quitarles el mismo. Creo que hemos generado los dos equipos muchas ocasiones de gol, y que si antes del partido me dicen si firmaba tener tantas ocasiones de gol como en este partido, lo hubiera firmado, pero esta vez el rival ha marcado un gol, nosotros no hemos sido capaces de marcar ninguna de las ocasiones, y es un resultado que refleja la igualdad en el terreno de juego.
Bon, les entraîneurs, nous prenons nos décisions en fonction de ce que nous considérons le mieux pour nos équipes. Avant d'aller juger les changements, je pense qu'il faudrait juger l'égalité qu'il y a eu dans le match. Ces deux équipes qui jouent très bien, surtout quand elles ont la balle. C'est difficile de prendre la balle aux deux équipes. Nous avons eu beaucoup de chance. Si on m'avait dit que j'allais avoir autant de chance, j'aurais déjà signé. La différence, c'est que l'adversaire a fait un but et nous n'avons pas fait. Mais je pense que les résultats montrent l'égalité dans le match.
Bonsoir coach, Arthur Perrault, RMC. En quart de finale, le Paris Saint-Germain a déjà réussi à remonter un but de retard au match retour. Est-ce qu'il y a quand même de l'espoir ce soir? Merci.
Estoy seguro. Es la primera vez en la competición que el Dortmund va a jugar su segundo partido fuera de casa. Es la primera vez que nosotros vamos a jugar nuestro segundo partido fuera de casa, o sea, en casa. Con lo cual son escenarios diferentes y nuevos. Nosotros ahora ya no tenemos nada que perder. Es más, independientemente del resultado, habríamos ido a ganar el siguiente partido. Creo que todo lo que ha rodeado el partido por parte de las aficiones, ambiente excepcional de los aficionados alemanes, y también excepcional de nuestros 3.000 parisinos cantando todo el partido y animándonos. En París será la inversa. Estaremos respaldados por nuestro público y solo hay que pensar en recuperarse, en mejorar algunos aspectos del juego, pero repito, hubiera firmado generar el número de ocasiones que hemos generado y lo claras que han sido para marcar, pero luego hay que estar un poco más efectivos para conseguir otro resultado. Será abierto como este partido, sin ninguna duda, y veremos qué versión damos.
Je suis sûr que c'est la première fois que Borussia a joué dans cette compétition, va jouer le deuxième match, le match retour dans cette compétition à l'extérieur. Pour nous, ce sera la première fois qu'on va jouer le deuxième match à la maison. Donc, c'est des scénarios totalement différents. Nous n'avons plus rien à perdre et on va aller chercher ce résultat. De toute façon, comme on allait le faire si le résultat avait été différent, on va essayer de gagner ce match. Je dois dire que l'atmosphère a été exceptionnelle de la part des fans et des supporters allemands et de nos 3000 Parisiens qui n'ont pas arrêté de chanter pendant tout le match. À Paris, ce sera le contraire. Maintenant, il faut bien penser à se récupérer et à s'améliorer quelques aspects du jeu. On doit être plus effectif, mais je pense que le match, ce sera un match ouvert.
Voilà, Luis Enrique en conférence de presse, donc, n'a pas fondamentalement répondu, mais on n'est pas surpris à la question de Giovanni Castaldi sur son coaching. Un coach fait ses choix donc pour améliorer l'équipe, c'est à peu près l'idée générale. Deux, trois phrases que j'ai retenues. En fait, c'est un match avec des occasions manquées. Il les résume comme ça. C'est un peu ce que nous avait dit d'ailleurs Marquinhos et puis Achraf Hakimi. Et puis, une phrase bizarre. Si j'avais su qu'on aurait autant d'occasions, j'aurais signé les deux mains. Il est en roue libre, non ?
Ouais, non, mais il fait son boulot pour valoriser les choses positives de la soirée, parce qu'ils ont eu des occasions. Mmh. Mais bon, c'est bon, on n'est pas...
Louis Alenquer, on l'a dit un petit peu plus que ça, chez nos confrères de Canal, je crois, Romain.
Oui, exactement. Il a parlé aussi d'un point tactique que l'on n'a pas encore abordé. Je pense qu'Ousmane Dembélé pouvait défendre sur Emre Can, d'où la position centrale de Dembélé, notamment en première mi-temps. On voulait garder la profondeur tout en surveillant Fulcrook. Je n'ai pas de nouvelles d'Hernandez. Le vestiaire est un peu affecté, mais on compte sur nos supporters. On n'a rien à perdre.
Alors, la position d'Ousmane Dembélé, c'est une position, on va dire, offensive, mais alors défensive. C'est ce que révèle, en tout cas, Luis Enrique, nos confrères de Canal.
Bah oui, on a vu dans le replacement. Il se mettait plutôt dans l'axe. Alors ça a été vraiment très prégnant aussi en seconde période, parce que là, c'était aussi sur le plan offensif. Pour le coup, c'est un échec. Tu peux essayer, c'est intéressant au moins qu'ils le disent, mais pour le coup, ça n'a pas fonctionné.
Ok. Bon. Sur le remplacement, le coaching de Randal Kolo Muani, on a fait le tour ou pas ? Ouais. Ou il y a d'autres choses à ajouter ? Non, mais lui, il n'a pas répondu, mais est-ce que vous avez des trucs ? Parce que sinon, on va passer.
Tour aussi.
On va passer à Mbappé. Ah ben tiens, on va noter Enrique. Ouais, on va noter Enrique. Vous lui mettez combien, Luis Enrique ? 4, 5, moyen, 4.
Pas fan de noter les entraîneurs. Mais...
Ouais, mais il y a la note dans l'équipe parfois, là, on a le petit truc comme ça.
Tout le temps même.
Tout le temps. Non, mais ce qu'on peut lui reprocher, c'est quoi
du coup, de ne pas avoir. Il y a Esner qui est en tête, quoi. J'exagère.
C'est pas
tu confonds avec le Necatef, pour le coup. Ouais. C'est égal au Necatef.
Il n'est pas en tête, mais il n'est pas loin. Les trophées UNFP.
Oui, mais c'est le Necatef qui a voté pour les. C'est les entraîneurs qui ont voté pour les entraîneurs.
C'est vrai.
Non, moi,
4, pas satisfaisant.
Sur ce qu'on a évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire que je peux lui mettre la moyenne, mais pour moi, l'entrée de Kolo Muani était. Encore une fois, c'est le cheminement intellectuel que j'arrive pas à comprendre. Et voilà, faire rentrer un joueur en difficulté versus un joueur qui flambe quand il rentre depuis 7 mois, j'arrive pas à comprendre. Donc pour moi, c'est pas la moyenne.
Gonzalo Ramos, 12 buts en 2024. Hein, pas mal. Dans quelques minutes, la suite de l'équipe du soir. On fera un saut aussi du côté de Marseille, puisque demain. Ouais, c'est bien demain, ouais. Demain, ils accueillent l'Atalanta Bergame. Il y aura un point complet, une compo, et puis les petits secrets de Jean-Luc Gasset pour renverser l'Atalanta Bergame. Ça, on sera peut-être en mesure de vous les donner. À tout de suite. Vous regardez l'équipe du soir, vous avez bien raison. C'est un intégral Paris. Bon, on va faire un petit saut de puce avec les informations. Demain, le deuxième club français en lice dispute sa demi-finale. C'est l'Olympique de Marseille. Donnez-nous des nouvelles du front Romain.
Oui, on va faire le point sur les absents et les retours. Samuel Gigot est suspendu, ça c'est sûr. Jean-Louis Gasset espère pouvoir aligner Chancel Mbemba, Amir Mourinho et Quentin Merlin, pour qui il y a des doutes. Et Candice Roland, elle est alignée, elle est déjà à Marseille. Candice, qu'importe la compo, l'OM peut compter sur son atout numéro 1, le public du Stade Vélodrome.
Bonsoir, ce sera à coup sûr une très belle soirée européenne à l'Orange Vélodrome. Déjà, il sera plein ce stade, match à guichet fermé, 65 000 spectateurs, dont 2 800 Italiens. Cette ferveur, cette folie qui va s'emparer du stade, eh bien, les joueurs comptent bien s'appuyer dessus, évidemment, pour être poussés, portés et avoir ce supplément d'âme, ce courage qui pourra évidemment être l'un des atouts de Marseille face à Bergame. C'est ce que disait Jonathan Clauss lors de la conférence de presse ce mercredi. Jean-Luc Gasset, lui, attend évidemment de vivre cette soirée avec gourmandise, avec les supporters, vivre ensemble, avec toute une ville, ensemble d'ailleurs, un mot qui est ressorti plusieurs fois lors de cette conférence de presse, mais l'entraîneur marseillais, lui, sur le terrain, s'attend évidemment à un gros combat face à l'actuel 6e de Serie A. Je vous propose de l'écouter au micro de Nicolas Chébriand.
Le secret, ça sera de se préparer à un combat. C'est une équipe qui vous défie, c'est une équipe qui veut des duels. Donc comment on déjoue une équipe qui veut vous jouer un contre un sur tout le terrain, ça sera le secret, mais je le dirai aux joueurs demain matin.
Intéressant.
Voilà, Jean-Louis Gasset, ça va être un combat, ça va être les duels, ça va être le public, ça va être tout ça, quoi. Ça va être la Coupe d'Europe. Remarque, commentaire
sûr.
Bah, sur la sortie de Jean-Louis, sur... Le climat qui se prépare autour de ce match, on a l'impression que c'est la Grinta, c'est Marseille, c'est la folie.
C'est la base d'un match comme ça, une demi-finale. Mais
ce qu'on n'a pas vu ce soir.
La Reine. Par exemple, ce qu'on n'a pas vu ce soir. Et je pense que du côté Marseille, ils sont capables de le faire. Et puis après, porté par ce stade, forcément, t'en parles. Parce que c'est un truc à part. C'est un truc qui porte les joueurs. Et surtout, sur une demi-finale comme ça, ça va être, à mon avis, exceptionnel.
Mais il y a toujours un truc, moi, qui m'étonne. c'est des leviers, choses comme ça, mais on ne parle pas beaucoup de jeu. Comment on va les battre, comment machin, là.
Bah, il va pas te donner comment il va.
Non, mais.
Le match pour l'adversaire, quand même.
Non, mais d'accord, pas, dit, ce pas les plans.
J'en parlerai aux joueurs demain matin.
Ouais, mais après, l'espoir, il n'est plus, je trouve, de. Le caractère irrationnel de ce que fait l'OM en Europa League cette saison, de la magie qu'il y a au Vélodrome, de ces choses-là, que.
La qualité des joueurs.
De l'élaboration technique et tactique de cette équipe-là. C'est-à-dire que. C'est pas ce qu'ils ont fait contre Lens qui leur a donné des grandes bases, c'est pas ce qu'ils font depuis le début de l'année en championnat qui leur donne de grandes bases. C'est-à-dire, a priori, l'Atalanta est meilleure. Ça veut pas dire que l'Atalanta est sûre d'être qualifiée. Mais
donc il faut aller chercher autre chose.
Bah exactement, donc c'est pour ça qu'il parle un peu d'autre chose. Et quelque chose. Il l'arrange aussi parce que tu vas pas dévoiler voilà comment on va faire.
Quelque chose qui existe cette saison, parce que autant l'année dernière, vous allez avant, pas toujours, autant cette saison, depuis le début, il y a eu une semaine tendue un peu, rappelez-vous, quand ils reçoivent l'Ajax. Sinon, tous les matchs, ils ont été là. Tous les matchs. Il y a beaucoup de matchs où l'OM a été moyen, même beaucoup, à domicile, où là, effectivement, cette saison, tu peux vraiment considérer qu'il y a eu un apport et un soutien indéfectible du public tout le temps. Tout le temps. Là, j'étais contre Lens, où le match était vraiment moyen, où il était carbo. Lens revient partout, tu crois que c'est cuit. Et là, tu as le dernier quart d'heure où ça repart. Et effectivement, là, t'as le côté un peu. Voilà, on est plus sur du foot pur, qu'on est sur autre chose. Et je pense que c'est ça qu'il faut faire passer comme message. C'est que cette année, en tout cas, ça marche comme ça.
Maintenant, la magie du Vélodrome, je dis pas que je n'y crois pas. Elle est réelle.
Enfin, y a une limite.
Non, c'est pas ça. Je dis juste que la magie d'Anfield sur Atalanta, ça. Ça leur a rien fait. Ils ont fait comme ça le tour d'avant.
Je suis pas sûr que.
C'est pas complètement.
C'est pas la même ambiance.
Non,
je pense qu'à Marseille, ça va être porté tout le match.
Oui, oui.
Et il suffit qu'il y ait une action ou deux. Les mecs vont partir. Et je ne suis pas sûr qu'à Liverpool, ce soit la même ambiance. S'il y a une ou deux actions, il n'y a pas tout le stade qui se lève.
En tout cas, pas contre l'Atalanta en quart de finale.
Comment ?
Mais Liverpool est meilleur que Marseille.
Ah oui, non, sur le jeu, bien sûr, sur l'intensité, tout ça. Mais je pense que ce n'est pas la même ambiance. Moi, je pense qu'au Vélodrome, c'est assez rare de trouver une ambiance comme ça.
C'est différent.
L'équipe,
en fait, le public anglais suit le jeu.
C'est ça.
Alors que Marseille, ça fait du bruit, quel que soit le jeu.
Constamment.
C'est un peu différent.
Parce que là-dedans, quand ça chante, tu n'entends plus rien. Au Vélodrome, ça parle en plus. La caisse de résonance que c'est incroyable.
Gianluigi Gasperini, qu'est-ce qu'il a dit sur l'ambiance et tout ça, Gian Piero?
Il ne s'attend à rien.
Il ne s'attend à rien sur l'ambiance?
Bah non.
Ah oui,
il est surpris alors.
Il me revient un truc là sur la conférence de presse. Je reviens à Dortmund. Il y a Dinterzic. Faisait la comparaison. Peut-être que Paris favori, mais nous on aura plus faim. C'est des phrases qui me reviennent parce que là on joue sur la grinta et tout ça. Est-ce que vous avez vu dans l'attitude ce soir Dortmund donner une sorte de leçon d'engagement, de détermination, d'état d'esprit?
Pas les 20 premières minutes, mais franchement. Les 20 premières minutes, on ne peut pas dire que Dortmund y rentrait dans la gueule du PSG.
C'est pas le cas
du tout.
Oui, mais c'est ce que vous ne dites pas. Et les 70 autres minutes.
Mais pas les 70 en continu non plus. Il ne faut pas exagérer.
Non, ça n'a pas été.
Non,
ils n'ont pas joué que là.
On parle des 20 premières parce qu'on pouvait penser que.
Les vagues. Et parce qu'il ne sait rien. Parce que pendant les 20 premières, le PSG avait le ballon et Dortmund lui a laissé et n'a rien fait. Donc il n'y a pas eu de. Là, Jean-Louis Gasset parle de duel et de trucs comme ça. On n'a pas eu ça pendant 20 minutes ce soir.
Non, je trouve pas. Non.
OK. Bon, ce sera demain et on sera là. Didier Deschamps, encore l'interview à l'AFP, il a parlé d'une éventuelle présence. Enfin, il a été interrogé sur une éventuelle présence de Bradley Barcola. À l'Euro.
Le sélectionneur des Bleus révélera sa liste le 16 mai, c'est donc dans deux semaines. A priori, on connaît une immense majorité des joueurs qui iront en Allemagne, surtout que Deschamps n'est pas réputé pour ses surprises de dernière minute. Mais il y a quand même un joueur qui a été bon dernièrement et qui n'a jamais été appelé, c'est Bradley Barcola. Et le patron des Bleus en a parlé à nos confrères de l'AFP. Attention, je ne suis pas en train d'affirmer que je vais le prendre, mais ce n'est pas parce que je n'ai pas l'habitude d'appeler en phase finale des joueurs que je n'ai pas retenu avant que je vais m'en priver. Depuis mars, il a confirmé ses bonnes dispositions. Mais on ne le découvre pas non plus.
On entend sa voix, Didier Deschamps, sur ça, avec la double négation pour nos.
Mais en cette ligne, il y a 8 doubles négations.
Oui, ouais, c'est ça.
Vas-y, bon. Après.
Mais bon. Qui veulent un peu dire, oui. Un peu dire qu'il y sera.
Il est dans la course.
Il est d'autant plus dans la course que
s'il en prend 26.
Qu'il n'y a pas beaucoup de concurrents et qu'à 26, vous avez un peu de marge.
OK. Et tiens, notez Barcola, on en parlera dans quelques minutes. La suite des play-offs de EuroLeague, malheureusement, Monaco a chuté match 3 contre Fenerbahçe.
Et la Roca Team est dos au mur désormais dans ses quarts de finale de play-offs en EuroLeague. La reine des compétitions européennes en basket, les Monégasques battus en Turquie 89-78 ce soir. Fenerbahçe, c'est la meilleure équipe en Europe à domicile, en EuroLeague en tout cas. 15 victoires et 2 défaites seulement en saison régulière. Et ça, c'est vu ce soir. Il faudra donc gagner le match 4 à Istanbul vendredi.
sous peine d'élimination dès les quarts de finale, alors que Monaco a théoriquement de grandes ambitions, au moins le Final Four, voire la victoire finale. Les Monégasques l'ont quasiment dit directement plusieurs fois au cours de cette saison.
Ah oui, puis ils avaient rallié le Final Four la saison dernière. En NBA, des actions de grande classe cette nuit que vous avez sélectionnées, on est en play-off. Hein.
On en a retenu deux, des gestes de grande classe et surtout décisifs la nuit dernière. On commence avec le match entre New York et Philadelphie. Ah ouais. New York mène la série 3-1 et compte 3 points d'avance à une dizaine de secondes de la fin. La qualification est toute proche. Moment choisi par Tyrese Maxey. Shoot à 3 points depuis le parking. Les Sixers qui arrachent la prolongation et qui finissent par s'imposer 112-106. Ils reviennent donc à 3-2 dans la série. Et direction Cleveland pour le second. Evan Mobley décisif une première fois dans le Money Time. 102-100 pour Cleveland à moins de 10 secondes de la fin. Et le contre-salvateur du même Mobley sur la pénétration de Franz Wagner. Les Cavs tiennent leur victoire. Il y avait 2-2, il y a désormais 3-2 pour Cleveland. Ce premier tour de play-off qui est déjà bien chaud.
En ça, NBA. C'est un contre-salvateur, ça.
Bien sûr.
Oh, qu'est-ce qu'il est salvateur. À Madrid, les tennismen espagnols tombent les uns après les autres. Hier, c'est Nadal. Aujourd'hui, c'est Alcaraz qui prend la porte.
La Caja Magica, littéralement la boîte magique, le nom du complexe de tennis de Madrid qui a perdu ses super pouvoirs pour les locaux. Carlos Alcaraz, le tenant du titre, a été éliminé en quart de finale du Masters 1000 madrilène aujourd'hui par Andrei Rublev, l'Espagnol vainqueur du premier set, a ensuite subi la loi du Russe qui retrouve des couleurs d'ailleurs après plusieurs semaines compliquées. 6-3, 6-2 pour Rublev dans les deuxième et troisième sets. À Madrid, Alcaraz faisait son retour après un mois d'absence en raison d'une blessure à l'avant-bras. Il a aussi déclaré qu'il espérait pouvoir jouer le double des JO à Paris aux côtés de Rafael Nadal. Ça aurait de la gueule quand même.
Ouais. Egan Bernal au Tour de France, c'est officiel.
Le Colombien vainqueur du Tour en 2019 est en train de revenir à un excellent niveau. Il vient de terminer 10e du Tour de Romandie. C'était sur la chaîne L'Équipe. Il a aussi fini sur le podium du Tour de Catalogne. Et donc cet été, il devrait partager le rôle de leader des Ineos Grenadiers avec Carlos Rodriguez, l'Espagnol que l'on avait vu à son avantage l'été dernier. Egan Bernal, on le rappelle, a traversé deux années très difficiles après une grave chute à l'entraînement. C'était en janvier 2022.
Voilà. Il y a 30 ans, jour pour jour, le pilote de Formule 1 Ayrton Senna trouvait la mort sur le circuit d'Imola.
Et l'équipe rend hommage à cet immense pilote de Formule 1 brésilien en republiant la une du 2 mai 1994 sur la mort d'Ayrton Senna en Italie à 34 ans seulement. Et avec un supplément de 4 pages pour retracer les événements tragiques de ce week-end à Imola. Champion adulé sur les circuits et en dehors des circuits aussi, il a décroché 3 titres de champion du monde de F1. Et bien sûr, on se souvient de sa rivalité avec Alain Prost.
Merci Romain. Enfin, vous reprenez la main puisque les images du match et de la défaite du Paris Saint-Germain à Dortmund, 1-0, c'est maintenant, c'est avec vous.
En demi-finale aller de Ligue des Champions, le PSG s'est incliné au Signal Iduna Park. Regardez, magnifique ouverture de Schlotterbeck en profondeur pour Niklas Füllkrug. L'enchaînement du buteur allemand est parfait. Ce sera le seul but du match. La défense parisienne n'était pas parfaitement alignée. Regardez les occasions parisiennes en seconde période. Double poteau, d'abord c'était une frappe d'Mbappé, puis ensuite c'est Hakimi. Les Parisiens qui ont trouvé les deux poteaux sur cette action. Fabien Ruiz, la tête qui passe juste à côté sur ce centre de Marquinhos. Et Ousmane Dembélé a lui aussi une grosse occasion. Le Borussia a eu de grosses occasions aussi. Vous avez vu le sauvetage de Marquinhos. On écoute la réaction de Luis Enrique qui parle des demi-temps très différentes de son équipe.
Menos intensos en ataque. Dans le premier acte, nous avons manqué d'intensité, mais c'était mieux en deuxième période. On n'a rien changé tactiquement à la pause, mais je pense surtout qu'on a manqué d'identité dans un stade hostile. On aurait dû être plus incisif, on a été plus dangereux après la pause. L'état d'esprit était irréprochable et cette défaite n'a rien à voir avec la tactique.
Identité, ça veut dire quoi? C'est la personnalité, c'est l'état d'esprit, c'est quoi? On a manqué d'identité.
Peut-être en fait, de personnalité, vous voulez dire, peut-être. Ouais, de c'est peut-être un problème de traduction.
Okay.
En revanche, en tout cas, il a dit que ce n'était pas de sa faute, surtout.
Oui, c'est jamais de sa faute. Il essaie de faire les choses, ce qu'il nous a expliqué, Luis Enrique. Mbappé fantomatique. Alors tiens, justement, est-ce uniquement de sa faute? Habillage à la Mbappé, s'il vous plaît. Et on en parle. Est-ce uniquement de sa faute s'il était fantomatique ce soir? Vincent, vous me dites quoi?
Bah, un peu quand même,
oui. Oui, ok, c'est uniquement de sa faute, oui. Bertrand? Oui. Sébastien?
Uniquement de sa faute, non.
Non. Jérôme?
Oui.
Je suis dans la sauce, la pire. On connaît le résultat. C'est le président.
Laissez sa chance au produit.
Tu connais l'arbitrage.
Joe.
Oui, ben, jingle.
Mais voilà.
prends les trois.
Sébastien,
20 secondes chacun.
Vous voulez affronter.
Je suis très intéressé d'écouter les arguments.
Bah, vous voulez affronter qui? Le roublard Jérôme Alonso, le matois Bertrand Latour ou Vincent Duc?
Ah ben non, mais c'est Joanne qui décide. Hein, c'est
Bonjour,
non,
non.
Ah, t'as peur de trancher?
Non.
Tu connais plus courageux quand même.
Vas-y.
Bon, allez.
Je trouve que tu manques d'antenne en ce moment. Vas-y, exprime-toi.
Ok.
Tu peux nous faire un
dédicace. Je te laisse voir ça avec la direction, là, au troisième étage, elle est présente.
Ok, très bien.
C'est rare à cette heure-là.
Non, elle est partie. Sébastien face à Bertrand Latour, hein? On se fait ça? On se fait un petit match?
Bertrand, il est bon en plus.
Est-ce qu'il est prêt? Est-ce uniquement de sa faute, Bertrand? Vous avez dit oui, on vous écoute.
Bah oui, c'est uniquement de sa faute. S'il avait évolué au poste d'arrière droit, on pourrait lui trouver des circonstances atténuantes. Là, ce n'est pas le cas. C'est un poste où il a déjà été très bon. Il a été très bon, notamment en Ligue des Champions, au match retour face à Barcelone, puisqu'il a une note de 8 dans l'équipe, signe qu'il avait été extrêmement bon. Là, ce soir, il est à la ramasse. C'est un des meilleurs joueurs du monde. Il le sait, il nous le dit, et il faudrait juste qu'il le prouve, ce qu'il ne fait pas sur cette campagne de Ligue des Champions. Donc, d'un joueur qui veut être le meilleur du monde, ce soir, c'est inadmissible.
Oh, c'est quoi les circonstances atténuantes? Sébastien, on vous écoute attentivement.
Oh, bah, c'est inadmissible, alors là, j'ai gagné. Mais Bertrand, déjà, pour les gens, il faut le rappeler, l'avait déjà trouvé catastrophique lors du match retour contre le FC Barcelone. Donc, forcément, ce soir, il le trouve effectivement inadmissible, et bien entendu. Mais la réalité, c'est que je pense qu'il est passé à côté de son match, qu'il doit faire mieux, beaucoup mieux même, en étant effectivement, en ayant l'ambition d'être l'un des meilleurs joueurs du monde. Mais moi, je pense depuis le début de saison, donc je ne change pas d'avis là-dessus, qu'il est mis dans des mauvaises conditions par la tactique de son entraîneur. Ça n'excuse pas tout le monde là, mais je ne comprends pas qu'on puisse jouer comme ça avec un joueur pareil.
Ok, on va laisser un petit peu plus de temps, mais c'est normal, le sujet est épineux, c'est le sujet Kylian Mbappé, meilleur joueur du monde. Et le site L'Équipe, l'arbitrage du président. Président, vous avez écouté les arguments des uns et des autres, qui gagne pour vous et pourquoi?
Non, mais ce qui me dérange un petit peu, c'est qu'à chaque fois qu'il n'est pas bon, ou qu'on ne le voit pas, ou qu'il n'est pas performant, on remet en question de savoir s'il a été mis dans les meilleures conditions. Le match à Barcelone, moi aussi, je ne l'ai pas trouvé très très bon, mais il met ses deux buts et tout le monde en a fait le sauveur. Et il jouait dans cette position-là. Donc, je ne sais pas, je pense que les grands joueurs, les joueurs intelligents sur un terrain, sont capables de s'adapter à tout leur positionnement. Maintenant, là, sur ce match-là, je ne le vois plus prendre la profondeur. Alors, elle n'y est pas dans un second temps, la profondeur, mais dans le premier temps de la récupération du PSG, elle y est. Il est toujours en train de demander les ballons dans les pieds pour faire un peu le rôle d'une planche pour jouer avec les autres. Ça ne fait pas partie pour moi de ses qualités. Il peut le faire, bien sûr, mais sa qualité première, c'est d'aller faire mal à l'adversaire et d'aller chercher la profondeur. Il ne le fait pas. Donc qu'il soit sur le côté gauche, peut-être ça l'arrange. Mmh. Mais dans l'axe, il peut très très bien le faire. Il y a des très grands joueurs qui jouaient dans l'axe, qui allaient très très vite, qui s'en servaient de cette vitesse-là. Et donc je vais dire.
Mais sur la tactique de l'entraîneur.
C'est uniquement de sa faute s'il passe à travers de ces matchs-là.
Comme quoi, ma prise de risque a été payante. Parce que là,
c'est
un peu.
C'est vrai que franchement.
Non, mais comme quoi, il y a une justice quand même.
Attendez, tapis dans l'ombre, Vincent Deluc, je vous ai vu avoir un regard noir dans ce débat. Oui, à un moment, d'habitude, vous êtes impassible, mon Vincent. Qu'est-ce qui vous a agacé dans les arguments?
C'est pour un argument dont je parlerai à Bertrand pendant la pub.
Oh, ben non. Non. Je vais commencer la phrase. Vincent, je vous connais.
La ligne éditoriale.
Vincent, je vous connais comme si vous avez fait, mon Vincent. Vous allez attaquer à Bertrand. Bertrand, honnêtement.
C'est ça qui m'a agacé.
Non, vous allez continuer à suivre la phrase.
Moi, je vais dire.
Vous parlez à Bertrand, c'est Bertrand, honnêtement, tu peux pas dire ça. À vous, je vous connais, allez.
Franchement, Bertrand, tu peux pas dire ça.
Alors, tu peux pas dire quoi, Vincent?
Tu ne peux pas te moquer du 8 dans l'équipe, voilà. C'est ça que je voulais dire. Je referme la parenthèse.
On aurait pu en parler, hein, mais moi, j'étais pas là ce jour-là.
Au-delà de ça, en fait, je suis plutôt d'accord sur le fond. C'est-à-dire qu'il y a. C'est comme le match aller contre Barcelone. Il y a un moment. Ben voilà, il doit faire des différences qu'il ne fait pas. Donc, il faut qu'il assume le fait de ne pas les avoir fait. Après. Fantomatique, il y a toujours une gradation. Est-ce qu'il a été complètement absent dans les occasions parisiennes? Non. Sa frappe sur le poteau, c'était très bien joué.
Oui.
La louche pour Dembélé, oui. C'était très bien joué.
Deux actions.
Voilà, donc il aurait pu finir avec un but, une passe D, et il aurait eu encore 8 dans l'équipe. Non, j'exagère. Peut-être 7 quand même cette fois.
Mais plus à 8. Hein.
Mais
quand on voit 8 à Barcelone, on peut s'attendre à tout.
Hein. Ah, toi, t'as pas de 6 mètres non plus.
Il commence.
ça fait 7 ans.
C'est la même chose. Je sais pas combien il y a eu Vinicius.
Là, ça fait 15 jours que Joanne ronge son frein.
non, mais
ça fait 15 jours vous rangez mon
ça tous les jours.
Bah non mais oui non mais ça
j'étais
va.
J'étais très surpris
non,
de voir celui
vous avez pu dormir. Non mais c'était aussi des commentaires qui étaient apposés en disant finalement les autres brillent et ils laissent la lumière aux autres.
Ça, c'est exceptionnel.
Et alors ça mon Jojo le ça
vous dites non. Non, j'ai trouvé ça exceptionnel.
C'est un peu une réécriture de l'histoire si les mecs sont bons en fait. C'est qui monopolise le marquage donc les mecs sont bons.
Des offensives pour laisser plus de responsabilité aux autres. Ça, cette phrase-là, j'ai trouvé magnifique.
Oui, voilà, enfin voilà.
Ouais. Je pense qu'on aurait pu se contenter de dire que les autres le prenaient à deux, à trois et que ça faisait plus d'espace pour les autres.
Mais ça, c'est faux, ça voilà. aussi.
Si, c'était vrai.
Non, c'est faux parce que.
Mais ils l'ont pris à deux tout le temps.
Barcola, au match retour, par exemple.
Oui.
Alors qu'au match aller, Mbappé jouait à gauche. On a trouvé Koundé très très bon. Et tout le monde disait, mais c'est parce qu'il y en a deux, trois qui viennent. Barcola, il a pris un contre-un. Chaque fois qu'il contrôlait, il y allait provoquer.
Oui, parce que si tu contrôles. Il n'y en avait qu'un.
Oui, mais si tu contrôles.
Il y en avait deux à l'aller.
À peu près 10-15 secondes, c'est sûr qu'il y a deux, trois mecs qui vont arriver.
Non, mais à l'aller, il y en a eu deux tout le temps. Et au retour, il y en a eu un tout le temps.
Il a fait comment Messi pendant 15 ans.
Mais moi, je parlais de Barcola.
Déjà, on ne les met pas au même endroit. Mais c'est Mbappé quand même. C'est-à-dire que dès qu'il y a, en fait, il passe pas, c'est parce qu'il y a deux mecs.
Mais pas du tout. J'ai pas dit ça. J'ai dit qu'au retour, il n'y en avait plus qu'un, parce que surtout quand ils ont été 10.
Non, mais
c'était différent pour Barcola. C'était différent pour Barcola.
Non, mais moi, je trouve que quand il est sur le côté, notamment, ou quand on dit cette excuse, il y a deux, trois mecs, c'est parce qu'il met trop de temps à jouer. S'il contrôle, il y va, il y a un contre un. Quand il y a un décalage, on est d'accord. Donc s'il y va pas, donc il attend, il y a un décalage et les mecs viennent forcément se mettre à deux voire trois.
Mais là pour le coup je parle même pas que du match de Mbappé, mais regarde ce soir combien de situations il y a eu de profondeur, combien de fois la première passe leur a permis de gagner du
très
temps
peu.
Combien de fois ils ont eu 25 mètres à faire pour aller le couper à l'adversaire, que ça soit aucun des trois, je parle des trois.
Ouais, mais ils demandent tout le temps d'aller ballon dans les pieds. Mais que lui, hein, je parle des trois.
Sauf que quand il a 40 mètres à faire, il le demande pas dans les pieds. Sauf que quand il y a de l'espace, il le demande pas dans les pieds.
Quand il s'installe dans le camp de Dortmund, oui. Mais quand il récupère d'en bas, si tu n'as pas l'appel, parce que hier, la passe de Kroos, elle vient aussi de l'appel. Tu vois, il y a eu l'appel, pourtant, il n'y avait pas trop d'espace. Oui. Mais il y a l'appel vers le but.
Oui.
Mais enfin, ça, je ne le vois pas.
Vu comment le milieu s'est battu avec le ballon, tu avais l'impression qu'il leur fallait un lasso pour l'attraper. Ils auraient du mal à le trouver en première intention, quand même.
Chaque fois qu'il passe à côté, c'est toujours...
Non, pas du tout. Pas du tout. Je suis le premier à dire qu'il doit faire plus que ce qu'il a fait.
Parce qu'il n'a pas fait ci, une autre fois, c'est pas
les autres. Les grands matchs pour les grands joueurs, etc., il doit être plus grand que ça ce soir.
Moi, je partage votre point de vue. Il doit être meilleur.
Oui, voilà.
Ce soir, il doit être meilleur. Je dis juste que, moi, pour moi, il est resté trop longtemps au Paris Saint-Germain. Mais ce serait long, on pourrait en discuter très longtemps. Et je ne comprends pas, encore une fois, mais personne ne veut avoir cette discussion sur le jeu. Je veux avoir cette discussion sur le jeu sans chercher des excuses à Mbappé. Il doit faire mieux.
Oui.
Point barre.
Mais ça, on est d'accord.
Mais sur le jeu, je ne comprends pas, j'en reviens à ce que je disais au début de l'émission, comment un entraîneur qui connaît le football comme Luis Enrique, je ne le remets pas en cause, peut avoir envie de jouer comme cela, avec un joueur comme celui-là. Je
parce
ne comprends
peut-être
pas.
Peut-être qu'il y a aussi une...
Ou alors il le trouve nul, le
non, il y a peut-être que sur le côté, il défend moins, qu'il a besoin des mecs aussi qui viennent aider les coéquipiers.
Mais même s'il va dans et l'axe, donc... tu peux jouer plus vite.
Mais c'est même pas que Mbappé, franchement. Quand t'as Mbappé, Barcola et Dembélé...
Bah oui.
Mais franchement, qu'est-ce que tu t'en imagines? Imagine Ancelotti, comment il aurait joué hier soir avec les trois?
Encore plus bas qu'hier.
Je suis pas sûr qu'ils empêchent... Quoi, bah oui, Cédric qui empêche les joueurs de jouer la profondeur, quand même. Je ne pense pas ça, quand même.
Mais non, mais il veut tellement le contrôle, il veut tellement la possession...
Non, le contrôle dans certains moments.
Ah, mais quand est-ce qu'il joue verticalement?
Moi, je ne vois jamais prendre l'espace.
Quand est-ce qu'il joue verticalement et quand est-ce que la première passe te donne un temps d'avance?
Alors, la question, c'est est-ce que c'est Luis Enrique ou est-ce que c'est les joueurs qui viennent à chaque fois réclamer le ballon dans les pieds? Parce que moi, j'ai vu Luis Enrique entraîner le Barça... Ça avait du jeu de possession,
il
le
a changé
contrôle,
depuis.
Et ça avait aussi beaucoup de jeux de transition.
Mais là, il n'a pas trouvé là. C'était il y a 9 ans, il a changé de philosophie.
Ouais, mais je trouve qu'il
a
la capacité de faire les deux.
Quand il arrive au Barça, il change justement effectivement le jeu du Barça.
Non, il y avait quand même ce jeu qui restait.
Oui, mais il le change parce que de temps en temps, ça allait très très vite, ce qui n'existait pas avant.
Donc, tu peux le faire là ce soir.
Mais il a arrêté.
Mais il a arrêté.
Il a changé. Quand il a pris la sélection espagnole, il a changé, il a évolué, il a le droit.
Alors, rappelle-toi Espagne-Maroc.
Ben oui, il a le droit d'avoir ses convictions.
Il n'avait peut-être pas les joueurs pour aller aussi vite devant.
Oui, mais là, il les a.
Mais moi, alors, donc la question, c'est savoir.
Je veux te répondre sur un truc. Je veux comprendre. Moi, j'aimerais comprendre.
Si le mec, il demande à ses attaquants de toujours venir.
Moi, j'aimerais comprendre. Je vais te donner un exemple. Première phase de Ligue des Champions, je crois que c'était contre Newcastle. Si jamais c'est pas ça, vous m'en voudrez pas. Mais il y a une image incroyable. Il y a Lucas Hernandez qui prend le ballon, qui est sur le côté gauche, il est à gauche ce jour-là, et il jette sur Mbappé, d'accord. Et tu vois Luis Enrique, il fait un tour sur lui-même, il est fou de rage. Ça, c'est des images, hein, c'est pas moi. Il est fou de rage, derrière Mbappé marque.
C'est par rapport à ça.
Donc il veut pas, c'est une philosophie. Ouais. Tu vois ce que je veux dire?
Est-ce qu'on peut avoir un complément d'information parce que moi, je voulais lancer.
Ça veut dire qu'en fait, Lucien Riquet est bête, en fait.
Mais je dis pas ça.
Il a une qualité première.
Il doit avoir des raisons.
Non, mais Dembélé, moi, je comprends qu'on lui demande de venir dans les pieds et d'aller provoquer. C'est son jeu. Mais Mbappé, ça peut être son jeu. Mais ça a aussi demandé dans la profondeur. Je pense que je ne peux pas croire que Lucien Riquet dise à Mbappé, tu veux pas.
Oui, mais là, par exemple, c'est un exemple précis, tu vois ce que je veux dire.
Oui, mais donc.
Il était furieux.
8 mois, est-ce que c'était par rapport à la passe parce qu'il avait mis en profondeur?
Par exemple, dans le jeu.
Tu es sûr que c'était par rapport à ce.
Ah oui, là, c'était très clair. Et dans le jeu, on a bien compris que par rapport à ce qu'il avait voulu mettre en place, c'est que il mettait les joueurs à gauche dans l'axe pour fixer un peu. Et ce qu'il voulait, c'est que le jeu se joue à droite avec Dembélé et Hakimi. C'est ça, il l'a mis en place.
Oui.
Donc ça, c'est un vrai choix d'entraîneur. Donc là, il joue pas sur Mbappé quand il fait ça. Tu vois, il a le droit. Il a le droit. Moi, je ne comprends pas.
Ah, tu crois qu'il a dit aux joueurs de tout jouer à droite?
Bah, c'est ça, jouer à ça pour le coup, c'est vraiment l'identité qu'il a donnée à son équipe.
Ça passait beaucoup à droite.
Ah oui.
Parce que ça passait à droite.
Oui, mais il fixait. Ouais, c'est-à-dire que clairement, l'arrière-gauche restait à gauche et c'était Hakimi qui montait, qui jouait quasiment attaquant. Il a joué attaquant toute la saison, Hakimi.
D'accord.
Quasiment, non?
Donc, oui, je sais pas, oui.
Non, mais donc c'est les principes.
Oui, donc ça fait.
Mais il a le droit, moi je sais pas. Il doit avoir ses raisons.
Après Dion, on peut aborder un peu aussi.
Donc en fait, l'un de tes meilleurs joueurs du monde, le coach, il veut pas jouer avec.
Moi je ne comprends pas.
Voilà, on pense, non.
C'est un bon coach, il veut
pas le mettre
jouer
en valeur. Oui. Attendez,
non, mais d'accord, mais qui fait ça?
On a fait le jeu, mais il y a autre chose.
Non, mais je peux pas croire que Luis Enrique ait ça en tête, que considéré comme l'un de tes meilleurs joueurs au monde, tu joues jamais avec lui en fait.
Giovanni,
c'est la tactique.
Giovanni, vous rebondissez parce que je voulais vous lancer, mais je pense que vous pouvez confirmer ce que nous a raconté Sébastien. C'était à Newcastle au moment du service pour Mbappé. Et puis ça, vous pouvez nous le confirmer. Puis la deuxième question, c'est le match de Mbappé ce soir. Ce que vous avez vu du stade, ça peut être aussi intéressant pour expliquer son match raté.
Oui, pour le coup, je confirme ce que disait Sébastien, mais je confirme aussi que à Newcastle aussi, ils demandaient à ses joueurs, notamment Marquinhos, une fois qu'ils avaient fixé sur un côté, de vite changer pour offrir des situations de 1 contre 1, effectivement, sur le côté droit à Hakimi ou Ousmane Dembélé. Mais il a insisté sur la première partie de saison sur la possession, parce que c'est une équipe qui subit beaucoup et qu'il aimerait tenir plus le ballon pour que son équipe subisse, concède moins d'occasions. Ce soir, ce que je peux vous dire, ce que j'ai vu de la part de Luis Enrique, c'est que plusieurs fois, il a fait des grands signes pour dire à ses joueurs à l'opposé de monter et de prendre la profondeur, de prendre l'espace, d'arrêter de demander constamment dans les pieds. Je pense qu'il est un peu plus flexible sur cette deuxième partie de saison qu'il n'a été rigoureux en première partie. En tout cas, le comportement sur le banc le prouve, et que parfois il s'est agacé quand ses joueurs, quand il y avait des appels, notamment en seconde période, que ses joueurs n'aillent pas plus vite dans les transmissions. Donc il y a aussi des phases de jeu direct maintenant que les Parisiens tiennent un peu plus le ballon. Sur le match d'Mbappé, moi ce que je ne comprends pas et ce qui m'agace sur la saison d'Mbappé, c'est que c'est un joueur qui se met en action que quand il a le ballon. C'est un joueur qui a une vitesse folle, qui fait quasiment plus d'appels pour ouvrir des brèches aux autres, qui ne bouge pas, qui ne joue pas pour ses partenaires sans ballon, et ça je trouve que c'est insupportable. Alors après, je suis un peu d'accord avec Seb sur le fait que là typiquement j'aurais fait rentrer Ramos, Mbappé à gauche en seconde, je pense qu'on est tous d'accord pour le dire, mais c'est un joueur qui ne fait plus rien sans ballon. Peut-être qu'il a ses raisons, peut-être qu'un jour il nous l'expliquera, mais ça je trouve que c'est extrêmement frustrant parce qu'il a des qualités non pas que de vitesse mais aussi physique pour déranger les défenseurs, et ça c'est embêtant je trouve.
Giovanni, c'était très intéressant. Il y a un petit truc que je te demande de préciser. Il y a quelques minutes, vous nous racontiez de Luis Enrique qui demandait donc à ses joueurs de faire des appels. C'était qui? C'était les joueurs de côté? C'était adressé à Dembélé, à Kolo Muani ou à Barcola, c'est ça? Mbappé n'était pas concerné par ça?
C'est pas fondamentalement il a pas dit à Mbappé toi reste là, positionne-toi. Il demande simplement que quand une possession est sur un côté, qu'ils aillent plus vite chercher de l'autre côté pour offrir justement des situations de 1 contre 1 aux joueurs rapides. Il a jamais dit à Kylian Mbappé tu restes dans l'axe, tu fais la planche. Si à un moment quand le moignet rentrait et que Mbappé pouvait se retrouver sur le côté gauche, il leur laisse la liberté, parce que plusieurs fois d'ailleurs que le moignet est venu dans l'axe et Mbappé s'est aussi décalé sur le côté gauche. Je pense que le grand principe de Luis Enrique, en tout cas ce que je vois sur le bord de la pelouse sur la deuxième partie de saison, c'est que la possession c'est surtout pour défendre aussi, et que dans les situations que le jeu réclame, il veut fixer un côté, que ça soit à gauche ou à droite, surtout avec le retour de Nuno Mendes, pour aller vite à l'opposé, et on a vu d'ailleurs Vitinha faire des transversales et offrir des 1 contre 1. C'est surtout ça que je remarque, et il leur fait vraiment des signes comme ça, ce qu'il ne faisait pas en première partie de saison.
Merci Giovanni. Est-ce qu'on a aussi une explication sur le match raté de Mbappé? Ça veut dire que ça se passe dans la préparation. C'est-à-dire que j'avais eu des renversements rapides, machin, pour avoir des, offrir des zones de 1 contre 1, soit Barcola, soit Dembélé, il était un peu.
À partir du moment où il y a eu peu de rythme, c'est compréhensible. Mais je crois que vous avez tous fait le tour du
Mbappé,
du foot, du terrain. Personne a un problème de leadership, de ce qu'il dégage sur le terrain. Moi, ça me pose un vrai problème. Parce que t'es censé être... On a parlé de NBA tout à l'heure, c'est le franchise player, quoi.
Ouais.
Tu vois, c'est le joueur qui doit incarner quelque chose. Moi, pour moi, il n'incarne rien dans ces matchs-là. C'est ça, mon problème. Niveau ballon, vous avez tout dit.
Il l'a fait à Barcelone. Honnêtement, il l'a fait au retour à Barcelone.
Il l'a fait au retour à Barcelone. Ouais. Mais
il
encore une fois.
Non, mais sur cette attitude.
La révolte, c'est pas Mbappé.
Mais non, mais je dis sur l'attitude. Je parlais de l'attitude. Voilà. Non, mais à ce moment-là, il a tort à chaque match. C'est compliqué.
Il était leader de quoi à Barcelone?
Je dis qu'il avait la bonne attitude à Barcelone. C'est très différent. Il a porté autre chose.
En tout cas, différente de ce soir.
Il incarnait autre chose au retour qu'à l'aller.
L'incarnation de ce qui devrait être, au-delà du foot, vous avez tout dit. Mais moi, j'ai un vrai problème par rapport à ça. Mmh. Il n'incarne pas quelque chose. Est-ce qu'il y a un problème? Est-ce qu'on le saura plus tard? Est-ce que finalement, la gestion risquée pour moi d'Eric avec lui commence à jouer dans sa tête?
Il a montré qu'il était leader. Dans les saisons précédentes, tu l'as vu leader de quelque chose?
Mais s'il ne l'est pas, c'est un problème quand même.
Mais il n'a jamais été leader, lui.
Non, mais en équipe de France, quand tu dis que c'est Griezmann le leader.
Mais plus que ça.
Et lui, le soliste, je veux bien.
Lui, il suit, quoi.
Ouais, mais si au PSG. Le projet est construit autour d'un joueur.
Ah oui.
Si ce joueur-là, dans les moments clés, au-delà du football, parce que tu as le droit d'être pas bien ce soir, mais quand t'es pas bien, tu dois incarner quelque chose. D'ailleurs, parfois Vinicius,
mais il a ces trucs-là,
parfois Vinicius, notamment hier où il fait pas un match fabuleux, pas le but, mais Vinicius, je trouve qu'il incarne un truc.
Ah,
il vient contester, il vient discuter, il est chiant, tu vois. Et je vois pas ça d'Mbappé. Je le vois pas. Par moment, et j'aimerais le voir. Il faut le voir plus souvent. Enfin, on parle d'Mbappé.
Ce que vous avez vu de Vinicius hier, vous l'avez vu à Barcelone avec Mbappé, dans le comportement.
Non.
D'accord.
Mais moi, je sais pas à Barcelone, j'ai vu quelque chose de différent.
À un moment donné, il faut parler des choses. Quoi.
Mais oui, mais
si on me dit qu'il est leader, leader à Barcelone, là, je comprends plus rien.
Je dis qu'il incarnait autre chose. Si, il a été un des leaders à Barcelone dans l'attitude, je trouve.
Barcelone, la révolte, c'est Barcola, c'est Dembélé, c'est Vitinha, c'est Marquinhos. Après, il te met le pénalty, il te met le but à 93e.
Mais moi, je te parle pas de son match. Je te parle de ce qu'il incarnait dans le match.
Mais on l'a pas vu.
Je ne suis pas d'accord
dans le match à Barcelone. Qu'est-ce qu'il a pu être leader si on l'a pas vu en fait? Comment c'est possible?
Moi, je suis d'accord avec ce que dit Jérôme notamment, c'est que même en équipe de France, là sur la période très récente, on parle des deux derniers matchs des Bleus, que ce soit contre l'Allemagne et contre le Chili, sous ces deux matchs où on n'est pas très très bon, et il y a le poids de ce tissu quand même sur le brassard, et je trouve qu'il sort pas du lot. Alors,
ah bah non, c'est pas qu'il sort pas du lot, il a été très mauvais.
Ben voilà, mais
parce qu'il aurait pas dû venir.
Non mais d'accord.
Vu son attitude, il aurait pas dû venir.
Voilà,
il aurait dû aller à la pêche.
Sauf que c'est un problème et que tout est troublé par. Je vais en conférence de presse après l'Allemagne. Vous allez voir contre le Chili. À la limite d'être pas bon, ça peut arriver.
Mais avant, il venait même pas.
Mais le problème, c'est qu'il dit, vous allez voir ce que vous allez voir. Il a le brassard, c'est le joueur fort des Bleus.
T'es trop jeune, mais avant, il venait même pas, les mecs.
Non mais d'accord, est-ce que je vais reparler
pour ces matchs-là.
Mais qui viennent ou qui viennent pas, c'est pas mon sujet.
Les plus grands joueurs.
Mon sujet, c'est qu'il vient.
Je te parle pas de la conf de presse. Je te parle, non. Il venait pas jouer les matchs.
Dans ces cas-là, a priori, j'ai l'impression que Mbappé, quand il y a un truc qui lui plaît pas, il le fait. Genre, il a jamais trop de mal à, même s'il faut avoir des désaccords avec des institutions, à les exprimer. Je pense que si Mbappé, il est otage de personne. Je pense que s'il veut pas venir,
c'est pas ça.
Il trouve une bonne excuse.
Mais les matchs de mars, d'antan, les leaders, ils avaient gastro ou mal au dos.
Je dis simplement que au Paris Saint-Germain, ça va pas. Ça va pas là parce qu'il ne donne pas la pleine mesure de son talent, peut-être parce que notamment il est au poste de numéro 9.
Il va finir la saison à 50 buts, alors c'est vrai qu'il n'est pas très bon. Quoi,
si je peux finir, je dis juste qu'en équipe de France, tout est mis pour que ce soit dans les meilleures conditions. Il a le brassard, il joue ailier gauche, Deschamps lui demande de ne pas trop défendre, il a Rabiot derrière lui. Est-ce que les deux derniers matchs, il a fait quelque chose? Non, mais ça c'est pas grave. Est-ce que dans l'attitude, il a été au-dessus? Non plus. Donc on peut se réfugier derrière des statistiques qui sont énormes.
Mais donc,
je dis simplement que
il faut qu'il joue plus, il faut qu'il joue moins.
Mais Vincent, sois sérieux. Je dis pas.
Non, mais je sais pas. Tu veux en arriver où?
Je veux en arriver où? Je veux arriver au fait que on peut pas se contenter de ça avec un joueur qui est dans les premières du monde.
Je suis d'accord.
Bah t'es d'accord, mais sauf que vous êtes d'accord, mais sauf que vous êtes d'accord, mais sauf qu'à chaque fois vous nous dites, on est d'accord, mais Enrique, mais l'enchaînement des matchs, mais pas les bons milieux de terrain, mais il y avait pas l'espace. Donc en fait,
c'est important la nuance dans la vie quand même. On a le droit d'avoir un peu de nuance et de.
Mais je trouve qu'à la fin, à force de trop nuancer,
ah oui, mais à force de pas nuancer aussi, on n'entend plus rien. Ça fait juste un bruit.
Peut-être. Par exemple, Messi, Neymar, il y avait un peu moins de nuance. Là, c'est le moindre truc.
Si tu l'introduisais la nuance avec Messi.
Heureusement, parce que nous, on défendait, on voyait le football, en fait.
Alors que nous, on est des baltringues, nous, on est des cons, nous, on peut rentrer.
Johan voit le football et nous, on ne le voit pas.
Non, mais c'est bon, ça va.
Mais
c'est moisi comme argument, Johan. Tu le sais que c'est moisi.
J'ai pas fini, parce que j'ai à peine dit ça, ça y est, ça monte de partout.
Parce qu'il fallait pas le dire, c'est maladroit.
Non, c'est pas maladroit, je dis parce que Mbappé est français. Voilà. J'ai fini.
C'est pas vrai.
Mais bien sûr que si. Mais les entraîneurs, ça.
Mais quand on parle de l'équipe de France, Galtier, Johan, Galtier.
J'avais juste lu une
Christophe Galtier, il n'a pas été massacré.
Pardonnez-moi, Sébastien, j'avais juste lu une chronique de Vincent Duluc dans l'équipe le jour où Mbappé, Messi et Neymar s'étaient fait siffler. Je ne sais plus quel était l'intitulé, c'était honteux ou chose comme ça. Bah, vous aviez envoyé du bois par rapport à ses comportements et par rapport, on va dire, au bashing de Messi et de Neymar. Romain, juste un petit complément d'information. On a parlé de Mbappé, il a réagi sur ce qu'on s'est dit ou pas ? Directement ou pas ?
Oui, absolument. Il vous a mentionné Olivier Ménard et l'équipe du soir. Non, juste une petite story sur son compte Instagram. Il est déjà tourné vers le match retour. Regardez, c'est la photo qu'il a publiée ce soir. Avec la photo, en tout cas, du Paris Saint-Germain ce soir, mi-temps. Ici, c'est Paris. Donc, rendez-vous la semaine prochaine au Parc des Princes.
Moi, actuellement,
c'est un leader, tu vois, une photo d'équipe.
Ça, c'est drôle. Tournez votre collectif, l'autre, tu vois.
Dans quelques minutes, les chances de qualification de Paris après s'être incliné 1-0. Les statistiques ne sont évidemment pas en faveur du Paris Saint-Germain, vous y croyez ou pas. Vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux. Allez, à tout de suite.
Statistiques depuis quelques minutes.
Vous regardez l'équipe du soir, vous avez bien raison, mes amis. Dans quelques minutes, les notes de l'équipe du soir. Giovanni. Voilà, on a notre casting royal ce soir. On a Giovanni qui nous attend de l'autre côté. Vous vouliez noter Nuno Mendes. Vous nous mettez la note à Nuno Mendes, les copains. Mais tout d'abord, on va aller voir Giovanni, dernière intervention. Nuno, c'est 3,5. C'est la note moyenne sur le site l'équipe. Giovanni, combien ?
2, c'est très mauvais.
Bon, je mettrais 3. Alors honnêtement, j'ai senti, alors peut-être que c'est biaisé par rapport à ce qu'on a eu comme écho, et honnêtement, je l'ai senti gêné. Je pense qu'il était loin d'être à 100%, et ça s'est vu dans la manière qu'il avait d'intervenir. Enfin, je trouvais vraiment gêné, mais il a été très mauvais ce soir. Il a été pas bon défensivement, il a quasiment rien proposé offensivement, et on a beaucoup parlé des trois joueurs de devant à Barcelone, hormis le fait qu'il soit fait en rue par Yamal. C'est aussi un joueur qui avait beaucoup compté dans la rencontre à Barcelone, donc faudra que Nuno Mendes soit bien meilleur au match retour. Il y a l'absence de Lucas Hernandez très vraisemblablement, parce que le genou c'est inquiétant, donc c'est quelqu'un qui doit faire plus, proposer plus. Maintenant, je me pose vraiment la question de son état physique, parce qu'il y a une gestion quand même en Ligue 1 où il a quasiment pas joué hormis le match de Barcelone, et je l'ai senti gêné et embarrassé.
Merci Giovanni. Giovanni, ça, sur Lucas Hernandez, pas plus d'informations du club pour l'instant sur l'état de santé, l'état du genou gauche de Lucas Hernandez.
Merci. Alors pour le coup, on a aucune info. On a posé la question à Luis Enrique, qui est toujours ravi de nous répondre. Il nous a dit qu'il ne savait pas et qu'il ne parlait pas à son staff médical. On n'est pas obligé de le croire, mais il ne voulait pas nous donner l'info en tout cas. On essaiera d'avoir plus, notamment avec les copains du journal qui suivent le Paris Saint-Germain. Je pense que c'est important d'aller sur l'équipe.fr et d'acheter le journal.
Okay, voilà, mémé.
Il fera une plus grande carrière que toi, Bertrand.
C'est magnifique. La direction vous augmente. Merci beaucoup. Dernière intervention. Saluerai Jérémy Janagro de notre part.
Bonne soirée,
bonne nuit.
Bah Dortmund, là, ouais. Il t'a compris quoi.
Il a failli dire qu'il aimait les papiers de
Vincent. C'est pour ça que j'ai pas voulu y aller.
Ok, vous êtes là, vous avez mis combien Nuno Mendes, mes petits ? Là, il y a eu 2. 2, c'est très mauvais. Et puis j'ai la technique du chroniqueur pour avoir la gonfle. C'est la technique Vincent Duluc. C'est 1, c'est exécrable. Le dernier 1, on en avait parlé, c'était Stéphanie Frappard.
Ah oui, mais j'ai, je crois, 2 arbitres de suite. Je suis dans l'affaire.
Non, c'est le petit vernis, non ?
Exécrable, ouais.
Mais oui, parce qu'il peut les tuer en première mi-temps, quoi. Non, mais il y a une action où il fait un festival, quoi.
Trois d'affilée.
Où il fait, trois erreurs d'affilée. Il s'est fait jongler tout le temps. Offensivement, il n'a absolument rien amené.
Franchement, avec un bon arrière-gauche, je pense qu'il serait presque rien passé dans le camp du PSG.
Et il provoque un pénalty.
Pour moi, il y a pénalty.
Ah oui.
Mais
ouais. Alors, pardonnez-moi, sur le ralenti, bon. à l'image, je dis mais il le balance, Fulkroog. Et finalement, le ralenti,
c'est une petite. Ça empêche Fulkroog.
Ouais, c'est une petite
de pouvoir marquer presque.
Ouais. Ouais. Mais si tu lui fais perdre 10 cm,
ouais. ça suffit.
Ouais. Ok.
C'est ça le truc.
J'ai pas compris. Hein.
C'est que s'il faut balancer le mec, c'est ça où ils font une fois.
Mais ils n'ont pas été malins, les joueurs de Dortmund.
J'avais dit qu'ils doivent sortir le ballon.
Bien sûr.
Tout de suite.
Et mettre la pression pour au moins que ce soit regardé. Alors je sais même qu'ils ont regardé sur des enveloppes. Qu'est-ce qui se passe?
Chicha, c'est le journal du art encore. Vous, maintenant, dès que vous prenez la main, vous exigez un jingle.
Je n'exige rien, moi, c'est la régie qui s'en
occupe. Ah oui, c'est vrai.
Et ils ont trouvé un bouton, ils ne vont pas le lâcher.
Ça, c'est horrible.
Chicha. Romain, c'est la même qu'on découvre.
Exactement, on va voir les deux.
Il y en a deux. Privé d'équipe. Romain.
On va commencer par celle de l'Olympique de Marseille avec une interview d'Aubameyang avant la demi-finale aller de Ligue Europa contre l'Atalanta Bergame. Marseille est une folie, c'est ce que nous dit le Gabonais. Il y a aussi une sur le Paris Saint-Germain, bien évidemment, avec un jeu de mots très bien trouvé au pied du mur, les Parisiens, avant le match retour. J'en profite pour redonner la petite stat que j'ai donnée tout à l'heure. 32% des équipes qui ont perdu le match aller à l'extérieur se sont qualifiées au match retour à domicile. Et ça depuis la fin de la règle du but à l'extérieur, donc c'est-à-dire depuis 2021-2022.
Mmh. Voilà, on vous y croyait à cette qualification là, ce soir?
Oui.
Totalement.
Ah, oui.
Bon, bah, allez-y, faites-moi le fond de l'œil, allez-y, parce que j'ai bientôt me coucher. Bah, oui, non, mais un petit truc quoi, pour m'ordonner, c'est pas parce que ce soir, non, moi je suis déprimé.
Reprends les arguments du premier duel, c'est-à-dire on considère que tu n'as pas été très bon, que tu as même très mauvais en première mi-temps. Dans deuxième mi-temps, c'est 5 occasions partout, et qu'à l'arrivée, tu perds 1-0 contre une équipe qui, pour moi, mais néanmoins, ça reste un gros cran en dessous du PSG. Point. Donc ça veut dire que si je ne te demande pas de faire le match de l'année en plus, tu fais un peu plus.
Mais c'est le match de l'année, mon Jérôme.
Bien sûr, ça va être un truc immense.
Mais c'est le match de l'année.
L'ambiance va être dingue.
Mais vous me dites, je ne demande pas le match machin, on est supérieur machin.
Non, je vous dis juste que c'est
on
pas.
On les a vus, les supérieurs ce soir.
Je vous dis au contraire, c'est pas la peine de sortir. Non. C'est pas la peine de sortir le match de l'année pour sortir Dortmund. Si tu fais un bon match, tu les sors.
Ça va être bon.
Ça
va être un truc immense quand même, mais vraiment immense. Enfin, ça va être un événement assez incroyable avec une ambiance dingue, et c'est évident. La dernière fois que le PSG est allé en finale, c'était en plein Covid en 2020, devant personne. Il y avait 150 personnes. Ils sont allés une autre fois en finale de Coupe d'Europe.
Ah oui.
Pas de C1, mais sur la 3 finale Coupe d'Europe.
Deux finales.
Donc, ça va être un truc de fou. C'est pas possible que le PSG fasse deux fois ce match-là. Impossible.
Totalement partager votre optimisme.
Mais,
et j'étais très optimiste avant. C'est-à-dire à quel point j'ai le Covid et je sens rien du tout. Mais, ils étaient largement meilleurs avant le match aller, normalement. Bon, ils ont perdu le match aller. Très bien. On peut voir les occasions qui se sont créées, procurées. C'est la communication des joueurs et d'entraîneurs. Très bien. On peut aussi se dire que sur 180 minutes, tu en as fait 90, que tu es mené et que tu as aussi concédé pas mal d'occasions. C'est-à-dire qu'on peut décider de voir tous le verre à moitié plein et il y a des raisons légitimes. Et je pense toujours que le PSG a plus de chances de se qualifier que Dortmund. Mais j'espère que ce ne sera pas l'état d'esprit des joueurs, mais la fleur au fusil en disant on est bien meilleur.
Non, la fleur au fusil, sûrement pas. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que ce PSG que j'ai vu, j'aime ce mot dans l'urgence, au début du match contre le Barça, même 11 contre 11, c'est sûr que si tu ne le vois pas pendant 20 minutes au parc, là, ça serait un gros problème.
Non, mais moi, je pense que le PSG va avoir les mêmes occasions que ce soir. Mais Dortmund, je pense qu'ils en auront moins.
Mais ils les auront plus tôt au Paris, tu verras.
Non, je pense. Sûrement. Et je pense qu'ils sont capables de renverser. Et ça paraît très logique par rapport au niveau des deux équipes.
Imagine s'ils avaient un bon neuf. Hein.
On est dans le monde des statistiques. Et là, il y en a une qui touche le Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain s'est incliné 7 fois dans une match confrontation directe. 7 fois, ils ont été éliminés à chaque fois, pas 7 fois, mais 5 fois. Donc ils ont passé 2 fois.
Donc, 7 fois
le Paris Saint-Germain dans son histoire.
Dortmund en 2020, par exemple. Ouais.
7 fois dans son histoire, ils sont inclinés à l'aller. Et ils ont été éliminés.
Mais là, pardon, mais tout ça n'a plus de sens.
Pourquoi ça
plus de sens? C'est balayé par le fait que la règle a changé.
Et puis, c'est pas pareil de perdre à l'extérieur ou à domicile. C'est pas inclus dans la statistique.
Il faut les oublier.
Si t'as perdu l'aller chez toi
et que tu paies. Non, mais c'est ce que je veux dire, si t'as perdu l'aller chez toi ou si c'est à l'extérieur, c'est quand même pas la même chose.
Non, mais là, c'était à l'extérieur. Quand Paris a perdu 7 fois dans 7 fois, quand Paris a perdu 7 fois à l'extérieur.
Ils mais c'est plus les mêmes matchs, quoi qu'il en soit. Alors, okay. On peut dire que c'est favorable. Bah, favorable.
Non, mais c'est plus les mêmes matchs. Regardez hier, il y avait une stat. Il y avait eu deux partout entre Bayern. Le Bayern et le Real. OK. Avant, quand tu faisais deux partout, tu avais 64% de chances de passer. Oui. Aujourd'hui, tu en as plus que 48.
Oui, mais c'est logique.
Oui, mais là, c'est logique. Mais là, quand tu perds déjà le match aller, quand tu n'as pas été bon. Donc vous espérez finalement, et quand tu concèdes des occasions, non, là, et quand tu continues depuis le début de la saison de
avant, si tu perds 1-0 ou 4-3, tu vois, si tu perds 4-3 ce soir, il y a 5 ans,
oui. On aurait dit bonne opération.
Ben oui.
On aurait dit bonne opération.
Oui, non mais d'accord, mais là, oui, ok. Ah,
mais oui, là, 1-0, il faut...
Donc en fait,
la stat elle change un peu.
Quoi. En fait là, on s'appuie plus sur ça.
Ben bah non,
faut plus s'appuyer sur ça. Ça ne marche pas.
Même s'il prenait un but au retour là, ouais, okay. Il en faut que deux entre guillemets pour aller en prolongation par exemple.
Et puis bon, alors c'est
d'accord, mais bon, vous êtes de face à pareil.
Non, c'est indexé. En fait, les stats, faut oublier. Mais les stats, elles sont indexées aussi sur la valeur de l'adversaire. Vous êtes en demi-finale de la Ligue des Champions. Et par exemple, est-ce que PSG Dortmund c'est la plus grosse demi-finale de Ligue des Champions de ces 10 dernières années?
Non.
Sans doute pas. Non. Donc les rapports de. Bah, je veux dire, c'est pas City en face, c'est pas le Real en face, c'est pas le grand Barça.
Non, mais t'as quand même déjà
c'est pas le grand Liverpool.
Malgré
oui,
ça.
D'accord, mais t'as paumé à l'aller, mais en ayant beaucoup d'occasions et en étant mauvais, en ayant beaucoup d'occasions. Ouais, donc t'imagines, en étant bon au retour.
Voilà. D'accord, oui, mais.
Non, mais des occasions, tu vas t'en créer.
Mais oui,
je dis pas le contraire.
Au moins entre 7 et 8 minimum. Donc je pense pas Paris ne pas marquer. Quoi.
Même Romain, une dernière.
Moi je te mets le repas, Bertrand.
Hein ?
Moi je te mets le repas.
Où ? Vas-y. Mais ça dépend où.
Hein. Ah, c'est toujours la même chose. Et puis c'est plus engageant pour moi que pour toi, la fortune que t'as fait.
Tout ça sur le banc.
Petit journaliste et machin. Tu vois, voilà.
Bon, il y a un repas.
Je t'invite chez Flunch et tu m'invites dans un étoilé. On est rentable.
Il y a un repas.
Bertrand.
Combien d'étoiles ?
Non, je vais te faire très simple.
Ouais.
Si Paris se qualifie, j'invite tout le plateau.
Ah oui ?
Et si
même
Joël, tu m'invites que moi.
Ouais, ça va.
Allez, Johan, il peut payer un truc.
Ça, c'est classe, ça.
Il a tout Bordeaux dans son portefeuille immobilier. Il peut quand même payer l'apéro, au moins.
Bon, oui, c'est bien aussi.
Non, mais t'inquiète pas, tu nous donnes ta carte.
Avec les journalistes, c'est bon.
Romain, une dernière statistique.
Ah oui, non, c'est pas une statistique, c'est une information, mais qui a quand même une petite importance. C'est l'excellent Alexis Menuch qui m'a transmis cette info. Alors attention, il faut suivre. Ce soir, Dortmund a gagné. Du coup, à l'indice UEFA, l'Allemagne est assuré de terminer parmi les deux meilleures nations européennes cette saison.
Dortmund.
Du coup, 5 places qualificatives en C1 pour l'Allemagne la saison prochaine. Et Dortmund est actuellement 5e de Bundesliga. Mmh. Et au lieu de devoir cravacher pour aller accrocher le top 4 et la Ligue des Champions, ils sont désormais assurés d'être qualifiés en Ligue des Champions. Donc par exemple, samedi, le match contre Augsbourg en championnat, eh bien en gros, ils peuvent le balancer pour mieux préparer leur demi-finale retour contre le Paris Saint-Germain.
Ouais, pas forcément.
Ils sont pas obligés de le balancer, mais en tout cas,
comme ils sont qualifiés,
ça change quelque chose.
Ouais, ils peuvent faire tourner largement.
C'est l'Italie et l'Allemagne qui auront chacune une place supplémentaire.
Ouais, donc là, Dortmund a réussi sa saison car ils jouent en Ligue des Champions. Donc pour le match retour, c'est gagné pour Paris puisque Dortmund aura déjà réussi sa saison. Si c'est... Non, mais non, les théories comme ça.
Quoi. Très
ouais, mais je vous remercie. Le quiz à présent, mes petits.
Pop.
J'ai joué ou je joue dans un club français. Ouais, j'ai joué, je joue dans un club français et j'ai marqué contre Dortmund en Coupe d'Europe.
Ah, pardon.
J'ai joué ou je joue dans un club français et j'ai marqué contre Dortmund en Coupe d'Europe.
J'ai compris.
Ok.
J'ai compris.
Le joker, Johan, vous éliminez.
Non, on verra, c'est à discrétion.
Non.
Bah, je fais ce que je veux.
Vous éliminez.
Oui,
c'est ce que vous avez dit.
Mais non, je charrie.
Vous éliminez et vous sauvez.
Okay. Oui. Ah oui, d'accord, ok.
Oh là là.
Je joue dans un club français, j'ai marqué contre Dortmund en Coupe d'Europe, c'est parti. J'ai marqué contre Dortmund cette saison. J'ai marqué contre.
Quand il a marqué contre Dortmund, il jouait en France ?
Non, pas forcément. Club français. Bah oui,
c'est
un club français où j'ai joué dans un club français.
Voilà. Achraf Hakimi, 4 points pour Bertrand Latour.
Allez, c'est une élimination de Bertrand pour l'instant.
Mbappé ?
Marqué contre
Mbappé, non, c'est pas lui. Je suis français. C'est pas Mbappé.
Dembélé ?
Dembélé, c'est pas lui. Je ne suis pas attaquant. Pour 2 points.
Français.
Ça va sortir. J'ai toujours 18 ans.
Hein ? Ah bah oui.
Zahir Emery, il l'avait donné en premier, c'est notre président.
J'ai rien dit. Ouais.
Non, j'ai dit que Emery.
Ah ben oui, il a marqué là-bas.
J'ai joué dans un club français, j'ai marqué contre Dortmund en Coupe d'Europe, c'est attention, c'est vicieux, j'ai marqué avec le Paris Saint-Germain, c'est vicieux. Enfin, c'est vicieux. Ah.
J'ai marqué avec le Paris Saint-Germain.
Sébastien, pourquoi il dit c'est vicieux ? N'y allez pas tout de suite. Sébastien,
il a rien.
Vous avez lancé,
il a rien.
C'était en 2010, avant l'arrivée de QSI. Voilà maintenant. Voilà, maintenant vous pouvez peut-être avoir quelques souvenirs et me proposer un.
Erding.
Erding, c'est pas mal, c'est bon, mais c'est pas ça. Vous êtes éliminé.
Tout au fond.
Julien Terrain. En deux points.
Chantôme.
Chantôme, oui. Excellente réponse, Sébastien. Clément Chantôme, deux points pour Sébastien.
Bravo, bien joué. Pas mal.
Franchement,
j'ai marqué contre Dortmund avec Monaco.
Mbappé. C'est raté.
Et c'est gagné.
Et voilà. Kylian, un ami, merci, Kix.
4 points pour ça.
Attention, 4 points pour ça, mais c'est ça, ça marque. Allez, au moment de ce but, je porte le maillot de l'OM.
Bien sûr.
Valbuena.
Valbuena.
Non.
Valbuena, c'est
moi qui l'ai
éliminé.
Mais j'avais dit en premier pourtant.
J'évolue toujours en Ligue 1.
André Ayou, 3 points pour Bertrand Latour.
Il va se calmer.
Il est très jeu.
C'est déjà
très très jeu. Oui.
Bien sûr, avec le grandier des gens.
Complètement sincère.
Qu'est-ce qu'il leur a mis?
On vous embrasse, on vous dit à demain. Et demain, allez l'OM, on vous embrasse, à demain. Ciao.
T'es pas l'équipe de Champions.